La broderie, le crochet et la couture sont des arts du fil qui ont une histoire. Des histoires qu'on ne peut pas complètement ignorer quand on se lance dans ces pratiques. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé des symboliques du fil. Il y en a beaucoup, par exemple, le lien, le temps qui passe, la liberté ou encore la flexibilité. Pourtant, dans la vie quotidienne, les travaux du fil ne sont pas toujours des représentants fidèles de ces symboliques, surtout celles qui nous promettent l'aventure et l'émancipation. Les travaux du fil sont souvent perçus comme des activités domestiques auxquelles s'adonnent des femmes qui sont considérées non productives dans les sociétés capitalistes, par exemple les femmes au foyer et ou retraitées. Dans cet épisode, j'ai invité Maëva, une personne que vous connaissez un petit peu si vous écoutez le podcast depuis le début, et je l'ai invitée pour discuter avec moi, à la lumière de ses réflexions préliminaires, de nos rapports respectifs à nos disciplines, la broderie pour moi, le crochet pour elle. Comment on a commencé ces pratiques, les a priori qu'on pouvait avoir sur ces disciplines, ce qui fait, au fond, qu'on a continué notre chemin dans ces arts un peu particuliers. Bref, de fil en aiguille, on va vous raconter comment on a fait la paix avec les préjugés autour des travaux d'aiguille pour s'approprier pleinement ces activités et les explorer librement et avec créativité. Créer, imaginer, inventer, c'est génial, mais ça va avec plein de questions. Moi c'est Cyrine et je vous accueille dans Chimère, le podcast où on parle création, créativité, art, artisanat, sans réponse toute faite, sans mépris et sans chichi. Merci d'être là et bienvenue dans l'épisode du jour. Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouvel échange en podcast. Vous allez voir, cet entretien est un peu particulier parce que je sors de mon rôle habituel de poseuse de questions et je participe pleinement à l'échange. Parce que là, en l'occurrence, c'est un sujet qui me touche de plein fouet et que j'avais envie d'en parler avec mon amie Maëva. Alors Maëva, je l'ai reçue à plusieurs reprises sur le podcast. Si vous ne le savez pas, elle est intervenue dans les épisodes 3, 4 et 26 et j'ai l'impression que cet épisode n'est pas le dernier où elle fera une apparition. Je lui ai proposé d'enregistrer cet épisode avec moi parce que c'était un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps et je trouve que c'est toujours plus riche d'avoir quelqu'un avec qui discuter et croiser son expérience et ses points de vue. Petite dernière précision avant de vous laisser à notre échange, l'épisode a été enregistré en décembre 2023, donc rassurez-vous, quand je dis l'année prochaine, je parle bien de cette année, on y est déjà. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Comme d'habitude, maintenant ça commence à devenir vraiment une habitude, bienvenue Maëva dans ce podcast. Comment
Merci
vas-tu?
Beaucoup. Ça va, c'est la période de l'année où il fait un temps dégueulasse et où tout le monde court partout, il y a beaucoup trop de gens dans les rues et il fait froid. mais du coup j'hiberne et quand j'hiberne ça va.
Bah moi c'est un peu pareil, même si du coup je suis très occupée parce que j'ai plein de trucs à faire pour Noël. Mais je suis quand même très contente d'avoir un petit peu ce temps pour enregistrer avec toi. Alors du coup, cet épisode de podcast, il est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, parce que d'habitude, je suis plutôt, même si je donne beaucoup mon avis, et que surtout quand je suis avec toi, parce que je te connais, je peux intervenir pour donner un petit peu mes ressentis et rajouter des trucs par rapport à ce que tu dis. Aujourd'hui, je voulais vraiment pas envisager l'épisode comme une interview, mais plus comme une discussion, parce que c'est un sujet qui nous touche toutes les deux, et c'est un sujet que, à la base, en vérité, je voulais traiter dans un des épisodes où je parle toute seule. Mais après, je me suis dit, en fait, je connais quelqu'un qui est très touché par cette thématique-là, et je pense que... Enfin, moi, je trouve ça toujours plus riche d'avoir des échanges que des épisodes solo, parce que moi j'ai mon point de vue, mais des fois je trouve que c'est bien d'avoir un contre-point de vue qui, même s'il n'est pas totalement différent du tien, bah, ça permet d'avoir des échanges qui font naître encore d'autres réflexions. Donc du coup voilà, aujourd'hui sera plus une discussion partagée sur nos expériences respectives sur le sujet du jour.
Et puis c'est toujours un plaisir de donner un coup de main si je peux aider.
Et ce coup de main est toujours très très apprécié, donc merci beaucoup. Et du coup, donc on parle de cet épisode, le sujet de l'épisode du jour, moi je voulais parler, en fait, je suis partie à la base de ma pratique de la broderie, et j'avais cette réflexion que, parce qu'en fait, en parlant de la broderie tout le temps avec les nouvelles personnes que je rencontre, quand j'explique un peu ce que je fais, c'est vrai que je dois toujours un petit peu expliquer comment je suis arrivée dans la broderie, et je me rends compte, à force de discussion, que c'était pas forcément quelque chose qui était pressenti, c'était pas forcément quelque chose qui était un peu destiné pour moi par rapport à comment je suis et aux activités que je pouvais pratiquer avant. Et du coup, bah, je voulais un petit peu discuter de ce truc des... Alors, je sais pas trop comment... Moi, je te l'ai un peu présenté comme ça et j'ai pas trouvé de meilleure façon de le dire, mais ces trucs de mamie... ces activités de mamie qu'on fait toutes les deux, parce que voilà, que ce soit le crochet ou la broderie, c'est quand même des activités qui sont très étiquetées grand-mère. Et du coup, bah, comment en fait nous on peut s'approprier un petit peu ces pratiques-là, et voilà comment on vit le fait d'être des mamies qui faisons de la broderie et du tricot chez nous dans le canapé. Voilà, parce que moi, du coup, je discute beaucoup de broderie avec d'autres gens, et puis j'ai soit des réflexions en mode ah oui, moi, ma grand-mère en faisait, ou de personnes âgées, ah oui, j'en faisais à l'école, et mais pourquoi toi t'en fais, t'es jeune et tout. Et du coup,
Personne t'oblige.
voilà, c'est ça. Donc, du coup, je voulais un petit peu parler de ces trucs de grand-mère qu'on peut s'approprier nous aujourd'hui, et peut-être du coup aborder ces pratiques autrement ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, je trouve que la discussion mérite d'être eue sur ce sujet. Et du coup, je voulais t'inviter pour en parler, et je voulais commencer par un petit peu discuter de justement comment est-ce qu'on en est arrivé à pratiquer aujourd'hui, parce que ce soit toi ou moi, c'est pas juste un hobby entre guillemets qui prend 2 heures dans le mois, quoi. En général, enfin, en tout cas pour nous deux, c'est vraiment des activités qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'espace dans nos vies. Moi, j'en ai fait un métier, donc on n'est plus à ce truc de ah bah j'en fais une fois de temps en temps parce que c'est sympa, mais voilà quoi, c'est pas ponctuel. Et du coup, est-ce que tu veux commencer par partager un petit peu ton historique avec le crochet, même si tu nous en avais déjà parlé un petit peu avant, dans les premiers épisodes?
Mais carrément, du coup, j'ai commencé une première fois très, 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 très jeune avec ma grand-mère, parce que c'était une couturière de génie. Elle n'en a pas fait son métier, malheureusement, et c'est un vrai regret. Elle rêvait d'être costumière, en fait, pour le théâtre. Et donc, elle était incroyable. Elle m'a fait tous mes vêtements, elle m'a fait plein de choses. Et moi, j'étais très, très portée sur les activités manuelles. J'avais ma maman qui était institutrice en maternelle, donc c'était déjà un truc super développé. Et du coup, avec ma grand-mère, c'était les activités qui étaient liées au tissu, au fil. Et donc, j'ai un petit peu tout découvert avec elle, je pense. J'avais même pas 10 ans, quoi. Broderie, tricot, crochet. J'avais des caisses de tissu avec mon nom dessus dans le garage, des chutes de ses ouvrages avec lesquels j'avais le droit de faire ce que je voulais. J'avais les chutes de pelote de laine. Et donc, là, c'était des écharpes pour mes peluches, des robes chasuble avec un ruban pour tenir à la taille. Vraiment très basique, mais j'ai commencé comme ça avec elle. Et puis en fait, assez rapidement, collège encore, jusque collège encore, j'essayais de faire des appliques sur mes sacs à dos à la main et tout. Mais j'ai arrêté, je pense, ouais, entre le collège et le lycée, ça s'est vraiment calmé. J'ai complètement arrêté. Et puis, bah, lycée, post-bac. Pareil, jusque Covid. Et bah, après, comme beaucoup de personnes ont recherché justement de l'occupation à ce moment-là, et ça a été vraiment un énorme concours de circonstances, parce que j'y avais pas du tout réfléchi, je m'étais pas dit en mode « ouah, trop bonne idée ». C'est la copine d'un de mes colocs qui était de passage pour la semaine et qui faisait ça, et moi j'étais dans une période comme ça, non seulement de tester le Covid, mais j'étais en plus dans une période de stagnation terrible où je venais de défendre mon mémoire, je venais de passer mes concours pour avoir ma bourse de doctorat. Et genre, à part attendre les résultats enfermés, je ne pouvais rien faire. Et donc, j'ai vu du coup la copine de mon coloc en train de faire ça. Et je me suis dit, putain, ça réveille un truc très, 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 très vieux chez moi. Mais genre, se lancer dans un nouveau hobby comme ça va être... En plus, il y avait l'attrait de la nouveauté parce que bah, j'avais rien touché de ces trucs-là depuis 10 ou 15 ans. Je m'étais dit, mais ça va être le meilleur plan pour essayer de me changer un peu les idées. Et puis, à me reconnecter à certains trucs quand même, parce qu'en vrai, plus jeune, même si c'est pas du tout ces voies-là que j'avais suivies, je voulais faire du stylisme, j'étais beaucoup dans la création déjà. Donc, ça a permis à me reconnecter à plein de choses. Et puis, aujourd'hui, c'est resté vraiment une pratique régulière. Ça a été quotidienne pendant un temps. Là, ça l'est un peu moins, mais en fait, ça m'aide surtout à garder un équilibre avec le boulot, quoi. Je passe mes journées devant un écran, je lis, je fais beaucoup de programmation, je suis sur des choses très très abstraites, et donc d'avoir une activité vraiment manuelle où je suis dans l'action, je suis plus dans la réflexion et où je suis en contact avec la matière. Où j'ai les mains, j'ai un peu les mains dans la terre, là j'ai les mains dans les fils, quoi. J'ai les couleurs, sur le plan sensoriel, en tout cas, ça change beaucoup. Et puis, c'est un peu aussi méditatif, genre, ça fait un peu tampon.
Bah, c'est hyper chouette. Ça me fait un peu réfléchir ce que tu me dis parce que, bah, du coup, comme tu disais, toi, tu as ce truc où tu as commencé jeune et il y a eu de la transmission aussi de la part de ta grand-mère, du coup. Et après, bon, bah, du coup, tu as fait ton chemin, tu as arrêté un moment et puis tu as repris pour d'autres raisons qui sont les tiennes. Mais du coup, moi, c'est pas du tout pareil. Moi, j'ai commencé très, très tard. Et des fois, j'ai du mal à me dire, ouais, en fait, je suis brodeuse parce que ça fait que 3 ans. Même si maintenant, ça y est, je le dis, ça fait quelques mois que je le dis. J'arrive à dire le terme, mais parce qu'en fait, ça me paraît tellement court et en même temps, c'est si long, 3 ans. Parce que du coup, moi, j'ai pas du tout eu ce truc d'avoir quelqu'un qui m'apprend. Parce que dans mon noyau familial rapproché, bah, il n'y a personne qui faisait vraiment ça. Enfin, ma mère, elle faisait de la couture, mais c'était déjà. Enfin, voilà, couture et broderie, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je ne coupe pas, je brode, je ne sais pas coudre. Et ce n'est pas du tout les mêmes, enfin, la même discipline, en fait. Et du coup, moi, voilà, j'ai pas eu trop de transmission à ce niveau-là. Et bah, pareil, enfin, j'ai raconté cette histoire plein de fois, mais moi, j'ai commencé dans le cadre d'un confinement. Et c'est pareil, c'était plus un peu un vent de panique où je savais que, du coup, c'était le second confinement qu'on a eu en France. Et bah moi, j'avais passé le premier confinement en coloc et du coup, bah, ça avait été ce que ça avait été, hein, très clairement. Être confiné 2 mois, un peu sans préavis, forcément, c'est pas toujours évident. Mais voilà, j'étais dans un appart où j'avais un peu mon espace, je vivais pas seule et tout. Et en fait, entre le premier et le deuxième confinement, j'ai quitté l'appart, enfin, on a quitté la coloc et je me suis trouvé un petit studio. Toute seule, donc je suis passée de voilà un super grand appart où j'avais quelqu'un quand même avec qui bah, vivre un peu cette période bizarre à bah, maintenant je suis dans un 20 mètres carrés et je suis toute seule et du coup ça va être un peu compliqué et du coup quand ils ont annoncé qu'on allait être confinés je me suis dit là il va falloir que je trouve un truc parce que je vais pas regarder des séries pendant 1 mois quoi, ça va pas être possible et en plus tu savais très bien que peu importe la durée qu'ils allaient dire ça allait pas être cette durée de confinement. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un truc. Et j'avais plusieurs amis qui faisaient de la broderie avant. Et je me suis dit, ah bah tiens, en fait, je vais tester ça parce que la broderie, c'était facile dans le sens où bah, moi, j'habite à Montpellier et il y a des merceries un peu partout. Donc tu peux trouver facilement de quoi commencer. Pour des novices, c'est pas hyper cher non plus parce que t'as pas beaucoup de matériel tant que ça à avoir. En soi, même si tu n'es même pas obligé d'acheter du tissu, tu as juste des fringues chez toi sur lesquelles tu peux faire tes tests. Et du coup, tu n'as vraiment que fil, aiguille et tambour à acheter. Donc franchement, c'était un bon compromis pour moi en mode c'est facile et c'est pas trop cher pour commencer. Donc au pire, si j'aime pas, je me serais pas, j'aurais pas investi un montant incroyable dedans. Et du coup, voilà comment j'ai commencé. Et donc, bah, comme je disais, dans plein de. Enfin, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais moi j'ai appris beaucoup par vidéo YouTube et par petites fiches techniques de broderie. Et du coup, bah, forcément, c'est pas la même chose qu'apprendre, je trouve, avec quelqu'un qui te montre les gestes et qui, en fait, je trouve qu'il y a un truc quand même dans la transmission où tu transmets pas juste des techniques. Enfin, tu vois, t'as un moment que tu passes avec la personne et après, quand tu pratiques le truc derrière, tu l'associes à cette personne et au moment que vous avez partagé. Moi, du coup, c'est pas trop ça. Après, ce qui est pas, enfin, c'est pas du tout pour faire la misquina, tu vois, mais en vrai, voilà, il y a ce truc qui est quand même assez particulier quand t'apprends par tes propres moyens, c'est que du coup, t'as pas de moments un peu chaleureux dont tu peux te rappeler après quand tu pratiques. Après, tu peux les créer toi en apprenant à d'autres gens et ou en pratiquant en commun, enfin, en collectif avec d'autres gens. Mais du coup, c'est un truc que je redécouvre plutôt cette année puisque maintenant je participe à des ateliers de broderie à Arles et il y a vraiment un truc que je trouve super chouette parce que c'est tout ce que j'ai pas eu en fait quand j'ai appris la broderie. On est tous là en train de s'aider, on discute un peu de tout en même temps et voilà. Du coup, voilà où j'en suis maintenant. Il y a eu que 3 ans donc il n'y a pas grand-chose à dire. Juste effectivement, j'ai appris beaucoup par des moyens un peu froids comme je disais, pas très très humanisés. Mais je pense pas que ça a été un problème parce que je trouve que je m'en sors bien aujourd'hui. Et du coup, bah oui, moi j'ai ce truc par contre que effectivement, ça c'est récent mais j'ai pas. Du coup, il n'y a pas eu de pause comme toi. Et la question que je voulais te poser tout à l'heure, quand j'ai écouté un peu ton récap de ton parcours avec le crochet, je voulais savoir un peu, enfin, le crochet, tricot, etc. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu as arrêté à un moment donné de pratiquer quand, du coup, tu disais vers lycée, et après un peu post-bac.
Ouais, c'est une bonne question, à vrai dire. C'est un petit peu difficile à vraiment genre fixer comme moment. Il n'y a pas un matin où je me suis réveillée en mode non mais c'est bon, j'en ai marre, je fais plus ça. Il y a beaucoup de choses auxquelles je l'associais, cette pratique que j'ai laissée tomber à ce moment-là. Il y a, enfin, c'est la période un peu où tu décides de ton orientation. Genre, c'est beaucoup trop tôt, clairement, mais c'est les moments où on commence à te poser vraiment les questions, tu vois, en mode de qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et moi, à l'époque, quand on me posait, à ce moment-là, quand on me demandait, je disais, ah, mais je veux être styliste. Ah, je veux faire un
Je
bac
sais
L,
pas ce que
option
tu
art
prends.
appliqué. On en est très, très loin, hein? Mais du coup, je pense qu'inconsciemment, il y a eu ce truc-là, tu vois, où en fait, j'avais pas le droit de faire les deux en même temps. J'avais pas le droit d'avoir et ce côté, ce background scientifique et genre les études que du coup j'ai poursuivies hein, dans les sciences, et en même temps avoir cette pratique créative dans la matière. J'ai gardé le dessin quand même pendant longtemps parce que c'était un petit peu plus facile, j'ai l'impression, mais j'avais pas, je pouvais pas faire plus.
Tu
Genre,
vas
je pense
plus
que je me suis
réfléchir
un
la
peu
vie pour avoir un
limitée à
truc
ce niveau-là.
éphémère.
Et
Je
puis
pense que
parce
quelque chose
que
comme
bah, c'est
ça,
les
j'avais
choses que
pensé
j'aimais
qu'à
bien
toi.
porter. Enfin, que j'aimais bien montrer. J'ai
Mais du coup,
jamais
c'est pas toi en
fait de
plus. Tu
vêtements. Je
demandes pas à
pense
ton frère de
que
mieux.
à ce moment-là, je faisais très très peu de tricot de crochet. J'étais plus dans
Mais je sais pas si c'est
vraiment,
toi
ben
qui
voilà,
faisais de
plus dans
l'âge,
la
du coup.
broderie, la couture de petites appliques,
Ok.
des choses comme ça. Et
Ok, question.
c'est aussi un âge où tu arrives et où c'est mal vu. On va pas se mentir, genre toute expression un peu d'individualité comme ça va être pointée du doigt. Et genre c'est un âge où tu rêves que d'une chose, c'est de rentrer dans le groupe. Et du coup, c'est aussi des choses que j'affichais plus du tout en fait. Parce que c'est quelque chose, pas force, j'en avais pas forcément honte. Genre si je me prenais chez moi pour une raison ou pour une autre à avoir une idée et à la mettre en pratique, j'allais pas me dire oh merde, je fais des trucs bizarres ou quoi. Mais juste du coup, ça c'est plus quelque chose qui faisait sens, c'est plus quelque chose qui m'attirait parce que je m'y retrouvais pas du tout quoi.
Oui, puis en plus, enfin, je trouve qu'il y a ce truc, comme tu dis, de. En tout cas, je vais parler pour notre époque parce que je ne pourrais pas parler pour aujourd'hui, mais où du coup, effectivement, ce genre de truc un peu niche, entre guillemets, c'était pas forcément vu non plus en mode ah, mais cette meuf est trop stylée, elle fait de la broderie, tu vois, ou elle se fabrique ses fringues parce que en vrai, en général, bah, déjà, voilà, vu l'âge que tu as à ce moment-là, tu vas pas forcément faire des trucs de dingue. Enfin, on va pas se mentir, c'est normal, tu apprends comme nous tous, en fait, et nous toutes. Il y a un truc où quand tu commences la pratique, forcément au début, faut pas espérer que ça va être incroyable parce que tu apprends quoi. Et du coup, il y a ce truc où moi, enfin, j'essaie là juste de m'imaginer au collège ou au lycée à faire de la broderie. Je pense que, enfin, déjà, ça s'est pas bien passé cette histoire, mais ça aurait été encore pire parce que
En vrai,
c'est
moi,
pas
je pense
comme
que
ça que tu
j'aurais
fais des potes,
vrillé.
tu vois. Voilà.
Alors, des potes, sûrement pas. Mais genre, déjà, à l'époque, tu vois, genre, la sortie la sortie du mois, c'était la sortie jusqu'à Paris, à l'Indienne Boutique, pour aller chercher les t-shirts de groupe et les délires un petit peu émo, tes rayures, tes machins, enfin, de l'époque, parce que moi, j'étais clairement complètement
Oui,
là-dedans.
j'ai raté
Et
pareil.
du coup, je me suis dit, si j'avais eu ce degré de
C'est faux.
liberté-là pour créer mes fringues, à ce moment-là, déjà, tu vois, je regarde des photos, je suis pas bien. Mais je pense que je serais partie dans
Faux
des
que je
délires.
dise ça.
Franchement, valait mieux que j'aie pas ça dans les mains à ce moment-là. Ça aurait été terrible. Terrible, terrible. Mais par contre, tu dis, tu vois, tu parles d'une époque qui est la nôtre et qui est probablement différente aujourd'hui. Et ça, c'est un truc dont j'ai vraiment le sentiment, et je pense qu'il est grâce au réseau et en particulier à Insta, puis même TikTok. Et qui est génial, c'est qu'en fait, les trucs de niche, maintenant, ça marche et ça marche de ouf. Et c'est le principe de toutes les esthétiques,
Trop
c'est le
bien ce
principe
truc-là.
des micro-tendances. Et en fait, au point que maintenant, même la mode de luxe, au sens où on l'entend un peu plus conventionnel, si tu veux, ben c'est compliqué de suivre parce que
Oui,
les
bah oui.
tendances, elles partent des gens. Et c'est plein de petits trucs niches qui vont partir dans tous les sens et qui vont parfois durer très peu de temps. Tu vas avoir
Tu peux
le
rester le combo
maximalisme avec
trop
des trucs ultra colorés, des énormes accessoires. Tu vas avoir, t'as eu une trend, enfin une tendance comme ça à un
Ah oui,
moment
je
où
suis
c'était
complètement, je suis complètement dans le
très
combo.
post-apo, même avec le crochet où tu avais des trucs super déconstruits, avec des fils qui
Oh,
tombaient dans tous les
booster tes
sens et tout.
cheveux déjà.
Et même les marques en fait ont du mal à s'approprier ces codes parce que les gamins ils vont beaucoup trop vite pour eux. Et en fait, il y a plein de petites choses comme ça, justement dans l'affirmation
C'est fou.
de ses goûts et dans l'individualité, qui soit sont devenues
Comment?
super admis aujourd'hui parce que les gens, ils ont beaucoup plus accès. Genre, je parle d'expérience, mais typiquement, regarder des animés sur Internet, quand moi-même j'étais au collège, c'était des heures à passer sur des plateformes de vidéos, genre YouTube, c'était clairement pas
Combien
suffisant,
t'étais derrière?
pour espérer trouver une version pas trop dégueu avec un sous-titrage en français qui avait une police pas trop dégueu pour être lisible, et c'était un truc où t'étais catégorisé, il y avait beaucoup de mal, tu vois, genre tu gardais ça bien pour toi, bien caché, genre, Alors qu'aujourd'hui, tu vois, genre, je me souviens, cette année, non, cette année ou l'année passée, Halloween ou Carnaval. Non, c'était cette année à Carnaval, je vois, genre, des gamins qui ont ben, l'âge que j'avais à cette époque-là, tu vois, et qui sont en full costume et qui sont pas en convention, parce que bon, en convention, ça peut pas,
C'est un
mais qui
monde à
sont
part,
vraiment
ouais.
là, tu vois, et qui l'affichent, genre, même sur les réseaux, vraiment, tu vois, genre, les animés, c'est un truc, et ça circule de ouf, et il y a des grandes, grandes séries qui sont ultra admises, et ils ont leur propre chaîne télé, enfin, et soit, à l'inverse, c'est vraiment des micro-tendances, mais qui marchent. Et genre pour lesquels t'es pas du tout stigmatisé, tu vois, c'est un truc qui est vachement mis en avant, et en particulier le do-it-yourself, parce que tu vas avoir aussi ces mentalités qui ont évolué en termes de consommation. Je veux dire, quand on était gamine, nous, le rêve, c'est d'avoir les marques, et puis pas forcément les meilleures, tu vois, c'était le sac Longchamp, c'était tous ces trucs-là, tu vois, c'était ça qui
Ouais,
faisait
c'est vrai.
que t'allais être bien vu. Genre,
Ouais,
alors
c'est vrai.
qu'aujourd'hui, j'ai peut-être une vision qui est un peu biaisée parce qu'on a quand même un milieu qui est super privilégié, on est vachement sensibilisé en fait à ces
Oui.
questions-là, et en réalité, la fast fashion, c'est toujours un problème, etc. Mais j'ai le sentiment que, genre, même là, à l'université, ils sont un peu plus âgés, tu vois, mais j'ai l'impression qu'ils portent vraiment des consciences qu'on n'avait pas nous, et qu'ils mettent en avant peut-être un peu plus ce genre de pratique aussi.
Oui. Bah après, c'est sûr que bon, il y a ce truc de quand même, on vit dans un peu dans notre microcosme, mais forcément, on voit pas tous les. Puis en plus, bon, on n'a plus 15 ans, donc à part si tu connais et que tu fréquentes énormément des gens qui ont 15 ans, et franchement, c'est un peu bizarre, tu vois. À part ça, enfin, tu peux pas savoir vraiment effectivement ce qu'il en est. Mais de fait, oui, il y a quand même un. On peut pas ne pas voir quand même qu'il y a une recrudescence de ces pratiques-là, parce que ce soit. Oui, la couture déjà, oui, et tous les trucs genre broderie, crochet, tricot, des trucs qui, bah, non seulement, en fait, c'est double, un peu double peine ces trucs-là, parce que déjà, c'était un truc un peu niche, mais en plus, c'est un truc qui est vraiment étiqueté femme âgée et femme au foyer âgée, tu vois. Enfin, y a vraiment un truc. Étiqueté un peu comme ça, je trouve. Et du coup, oui, forcément, il y a 10 ans, je m'en serais pas vantée en fait de faire de la broderie. J'aurais eu tort de pas le faire, hein, mais voilà. Maintenant, c'est plus du tout un problème, en tout cas pour moi. Après, voilà, je ne sais pas si c'est que j'ai fait un chemin dessus ou tout le monde a fait un chemin dessus ou une majorité de gens fait un chemin dessus, mais en tout cas, voilà, y a ce truc quand même où, comme tu dis, en fait, rien que sur les réseaux sociaux, tu vois plein de. Enfin bon, après, moi, l'algorithme, bien sûr, je l'ai entraîné pour que ça me montre ça, mais je vois
Oui,
plein
c'est
de
ça,
trucs.
genre c'est une
Je vois énormément de trucs,
grosse
même
part.
des trucs que je fais pas, tu vois. J'ai beaucoup de vidéos de crochet alors que je fais pas de crochet, mais juste parce que, bon, l'algorithme a capté que c'est le genre de contenu auquel je suis sensible. Mais du coup, c'est quand même un peu un truc rassurant quand tu vois que tu as ces gens qui pratiquent ces activités-là et qu'il y a plein de gens qui. Bah, qui aiment ce qu'ils font et qui y trouvent quelque chose aussi pour eux, tu te dis, ah oui, en fait, c'est pas, en fait, c'est même plus tant niche que ça, parce que maintenant, en fait, il y a plein de gens qui se mettent à ce genre de truc parce que, bah, parce que c'est tout simplement très stylé, on va pas se mentir, de broder, de fabriquer soi-même ses fringues, voilà. Mais du coup, bah, ça m'amène un peu à un truc dont je voulais parler, dont on a un petit peu discuté avant, du coup, d'enregistrer l'épisode. Mais enfin, moi, je sais qu'il y a eu un truc, je pense qu'il n'a pas du tout été conscient, parce que la broderie, en vrai, c'est juste que je ne connaissais pas. Donc, il n'y a jamais un moment de ma vie où je me suis empêchée de faire de la broderie. Enfin, c'est juste que ça ne m'est pas venu à l'esprit, comme plein de choses que je ne fais pas aujourd'hui ne me sont
Il
pas
est
venues à
venu gratuit.
l'esprit. Mais je pense que si on m'avait proposé de faire de la broderie quand j'avais 16 ans, j'aurais probablement pas été intéressée, parce que justement, il y a cette labellisation un peu ah bah c'est un truc de fille et c'est un truc de mamie aussi. Et en fait,
Ah, mais
pour
bien
moi,
sûr.
je pense que j'avais intériorisé beaucoup de stéréotypes négatifs sur tout ce qui est un peu étiqueté fille, voilà, fleurs roses et petits cœurs, tu vois, et petites paillettes, parce que bah, t'as envie
Façon,
d'être une fille cool, et du coup, les filles cool, elles font pas des trucs de filles. Et non, mais ça, je pense, voilà, j'avais envie d'en parler parce que
non,
clairement,
complètement.
je pense que toutes les deux, on a fait notre chemin là-dessus, mais on est toutes passées par là parce que, bah, en fait, tout le monde déteste les femmes, donc forcément qu'on finit par le faire
À un moment
aussi.
même, en tant que femme, oui, tu détestes les femmes à un moment donné dans ta vie, malheureusement.
Bien sûr. Et bon, bah, ce qui est cool, c'est de pouvoir en parler aujourd'hui en étant capable de dire, bah oui, mais c'est passé. Mais c'est vrai que je pense que c'est important d'en parler, parce que c'est pas comme si c'était un problème résolu de façon générale. Et du coup, moi, je suis absolument sûre à 100%, je mets ma main à couper, que si on m'avait dit, effectivement, il y a 10-15 ans, bah, ah, tiens, il y a machin qui fait un atelier de broderie, est-ce que tu veux venir? J'aurais dit, ah non. Non, clairement, moi, je fais pas ça, quoi. Enfin, parce
Mais t'es
que j'aurais
folle.
peut-être pas dit comme ça, mais je sais qu'apparemment,
Mais
j'aurais
tu l'aurais
pensé.
pensé comme ça, très
Parce
fort.
que c'est associé à quelque chose, voilà. Puis en plus, c'est un truc vraiment que tu vois comme quelque chose en plus de très délicat, un peu comme comment tu vois les filles quand t'es ado, quoi. Et oui, je pense que le fait que ce soit très étiqueté féminin et en plus, enfin, en fait, je sais pas. Moi, le bail de mélanger féminin âgé, enfin féminin femme âgée et sphère domestique. Je pense que c'est un cocktail qui fait que t'as pas envie de faire ça parce que c'est tout ce que la société déteste en fait, genre les femmes qui sont vieilles et voilà les femmes qui restent à la maison. Genre c'est vraiment tout ce que la société déteste et je pense que comme enfin tout le monde on les a toutes détestées à un moment donné et du coup voilà.
Ouais, je sais pas si j'aurais autant bloqué sur la question du féminin. Genre j'aurais rejeté en bloc parce que c'était un truc de fille. En vrai, avec du recul peut-être. Genre aujourd'hui, c'est juste que genre c'est quelque chose, si c'était à régler, que j'ai en tout cas complètement réglé parce que genre je suis clairement un stéréotype. Genre sur pattes. Je veux dire, certes, j'ai fait 10 ans d'athlé, j'ai fait du sport études, machin. Aujourd'hui, je suis danseuse. Mes loisirs, c'est le crochet et le potager. Voilà. En plus de ça, j'ai arrêté de boire de l'alcool pour la santé. Maintenant, je tourne à la camomille. Donc, je cumule, en fait. Du coup, si jamais je m'arrêtais à ça, je ne ferais plus rien de ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Même si je n'ai pas encore 30 ans. Genre, je kiffe ma vie, donc c'est quand même important. Par contre, à l'époque, ce qui m'aurait saoulée, c'est le truc un peu vieillot. Parce qu'en plus, comme moi, tu vois, à l'inverse, la figure qui m'avait appris tout ça, c'était ma grand-mère. En étant adolescent, tu vois, c'était plus le truc. Non, mais c'est un truc pour les vieux. Genre, je ferais ça quand je saurais rien faire d'autre, en fait. Et en plus de ça, à l'époque, justement, il n'y avait pas autant de production. Enfin, tu n'avais pas autant accès. Parce que, en fait, je pense que c'était des trucs de niche à notre époque, mais parce qu'il n'y avait pas les moyens de communiquer qu'on a aujourd'hui. Et en fait, je pense que plein de gens,
Ne
partout,
connaissais
pensaient
pas,
qu'ils étaient
ouais.
dans un truc de niche. Et en fait, si tu les mets ensemble, ils sont, ah, mais toi aussi, tu vois. Et ça aide vachement à déculpabiliser. Aujourd'hui, c'est trop bien. Mais sur plein de trucs, tu vois, tu as ça sur les loisirs, mais tu parles de santé mentale, tu parles de ton vécu, en fait, de façon générale, le harcèlement scolaire. En fait, les témoignages foisonnent et il y a
Moi, de toute façon,
de
je
moins
crois que
en
je suis
moins,
là.
je pense, de trucs sur lesquels tu peux te dire, je suis toute seule, ah, j'ai un problème. Et
Ah, je suis
franchement,
d'accord.
c'est un des trucs les plus sains qui soit arrivé avec les réseaux. Genre, s'il y a un truc pour lequel, genre, je les remercie, c'est vraiment celui-là, et y compris dans l'activité. Et c'est vrai que, bah, si tu... Enfin, moi, l'image que je pouvais en avoir à cet âge-là... Encore que ma grand-mère me faisait déjà, me continuait de me faire des trucs. Genre à cet âge-là, c'était plutôt du type écharpe bonnet, tu vois, mais elle faisait toujours des trucs un peu stylés parce que je lui disais, ben voilà, je veux une écharpe beige. Genre, j'ai eu la période, tu vois, t'as la période normie et puis la période émo. Genre, j'ai eu la même écharpe, les mêmes motifs, mais avec beige et bordeaux pour la première et puis gris et noir pour la deuxième. Mais du coup, elle me faisait des trucs cool, tu vois, donc j'avais même pas ce truc trop de ces vieillots parce que ben, même ça, elle les faisait bien, mais c'est vrai que. Pour le crochet en particulier, j'avais une idée un peu, tu vois, les napperons, en fait, la base. Genre, vraiment, la base du crochet, historiquement, c'est ce délire un peu dentelle napperon, où t'as ce truc blanc qui est figé dans de l'amidon et qui te sert à poser la tasse ensuite. J'étais moins fan. Et genre, j'avais pas conscience, parce que le tricot, je voyais très bien, je savais qu'on pouvait en faire des vêtements, mais en plus, ça avait l'air d'être super difficile. Mais le crochet, à l'époque, en plus, c'était très peu démocratisé en fait. J'ai l'impression que c'était encore en dessous, genre du tricot. Je ne savais pas que ça existait. J'avais, je pense, même oublié que c'était possible. Tu vois ce que je veux dire un petit peu, genre de faire du tricot avec une seule aiguille, quoi. Le truc m'était vraiment complètement sorti de la tête, mais parce que même dans, genre dans les médias que tu peux avoir, genre les films, des machins, genre déjà les stéréotypes, hein, ça va être une femme âgée, ça va être une femme seule, effectivement, et une femme qui s'ennuie. Mais ça va être toujours du tricot, très souvent du tricot en fait même. Ce qui fait qu'il n'y a même pas de recherche sur qu'est-ce qui est fait concrètement. T'as l'impression que c'est vraiment un accessoire de plus pour coller aux stéréotypes qui te mettent comme ça, tu vois.
Oui, c'est ça. En plus, moi, je te rejoins beaucoup là-dessus parce que la broderie, c'est pareil. En vrai, la broderie, c'est pour. À la... enfin, quand je... Au début, quand je pensais broderie, c'était vraiment en mode décorer des draps et des têtes d'oreiller, tu vois, avec de la
Avec les petites
broderie.
initiales du linge de
Voilà,
famille, là, qu'on
c'est
se
ça,
transmet de
tu vois.
génération en génération.
Ou faire des petites fleurs, mais enfin, tu vois, mais toujours dans un truc de on va décorer la maison et tout ce qui est dans la maison, tu vois. Et en plus, quand je dis ça, je veux vraiment pas être condescendante ou quoi, parce que moi, je pense que c'est pas du tout. Enfin, ça s'arrête pas à ça. Mais souvent, on le voit un peu comme un truc, du coup, qui est en fait, tu fais des petits trucs, tu vois, pour décorer les linges, pour décorer les serviettes, pour décorer les mêmes, tu vois, les nappes et tout. Mais c'est pas vu comme de l'art, c'est pas vu comme une pratique artistique, parce que c'est un truc qui reste dans la sphère du domestique et qui rentre dans l'entretien de la maison, tu vois. C'est genre, ah bah du coup, je vais repimper un peu mes nappes et broder des petites fleurs sur les coins, tu vois. Et en
Ouais,
vrai,
c'est vraiment
enfin.
activité de lingère, dit comme ça, genre t'as...
Bah, c'est ça. Et moi, je pense que même si ta pratique de la broderie s'arrête à ça, ça en fait pas moins. Enfin, ça en fait pas une activité qui est inférieure. Mais du coup, c'est comme c'est beaucoup vu comme ça, moi j'avoue que effectivement j'avais un peu cette image que bah, en fait la broderie pourquoi faire, tu vois, parce que je voyais pas tout le potentiel qu'il y avait derrière et tout ce que la broderie peut porter aussi en elle, juste en tant qu'activité et dans les productions. Et du coup, je te rejoins vachement sur ce truc de bah en fait oui, l'image que j'avais, c'était un peu un truc comme ça, de truc de maison où j'étais là, bon, j'ai pas envie de faire ça, donc je vais pas faire de la broderie.
Mais en fait, c'est ça. En réalité, tu vois, c'est clairement pas la pratique elle-même qui est problématique. C'est genre juste tous les stéréotypes négatifs auxquels elle va être associée. Tu vois, c'est pas tant le crochet, c'est pas tant la broderie ou quoi. C'est, ben, il y en a un où ça va. Enfin, ça va être. En fait, c'est vrai que toutes les activités textiles. Mais
Bien
d'ailleurs,
sûr,
c'était
aucun
enseigné à une
rapport.
époque, à l'école, aux
Ouais.
femmes, quand
Oui,
les
tout à
écoles
fait.
étaient encore non mixtes et que les femmes. Et ça faisait partie vraiment des devoirs de femmes. Putain,
Une bonne maîtresse
de
de maison.
ménagère, une bonne maîtresse de maison, putain. Ah, ça fait mal aux oreilles, ça fait grincer des dents un peu comme ça.
Ouais, un peu, ouais.
Que de savoir ça. Et honnêtement, moi, j'ai ma mère, c'est pas si loin. Alors, je crois que ma mère, c'était encore optionnel et c'est un choix d'option qu'elle a fait, tu vois. Parce que, nos parents, ils sont pas si vieux comme ça non plus. Enfin, j'ai pas. Peut-être qu'ils le deviennent et que juste on les voit pas vieillir, mais c'est pas une impression que j'ai. Et ma mère avait pris cette option, une option couture comme ça, quand elle était au lycée, et elle a encore le cahier dans lequel avait ses travaux. Je sais pas si ses travaux eux-mêmes, elle les a toujours, mais il y a totalement moyen vu comment elle est super soigneuse et qu'elle conserve tout. Et donc dans son cahier, il y a vraiment tout précautionneusement expliqué. Donc c'était tout un ensemble de linge de bain. Donc la serviette, le gant, le peignoir et tout. Et donc tout avait été cousu et donc avec tout brodé avec ses initiales et tout. Et
Bah moi aussi.
en vrai, du coup, tu vois, en soi, genre je me dis aujourd'hui, tu m'apprends ça à l'école, même à cet âge-là, je suis ravie. Je pense d'apprendre à faire ça. Je suis, mais refaite. Aujourd'hui, tu me dis, t'es sûr, je pouvais prendre des cours de couture à l'école, mais comme j'en étais folle. Mais c'est les trucs associés derrière, tu vois. C'est qu'on te l'apprend parce que c'est parce que t'es censé entretenir ta maison et qu'on te l'apprend parce que c'est les trucs dont tu vas avoir besoin, parce que c'est ton rôle et parce que c'est ton genre qui fait que c'est ton rôle et tout ça. Et où t'es là, c'est vachement limitant quand même.
Pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, moi il y a un truc qui, enfin, que je trouve hyper intéressant et que bah moi j'ai mis du temps, je pense aussi à conscientiser, parce que c'est tout un chemin, mais c'est effectivement ce truc de je me faisais la réflexion que quand tu fais partie d'une catégorie de la population qui subit beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés, bah, il y a ce truc où en fait on t'attend au tournant sur à peu près tout. Et très régulièrement, en fait, tu es attendu au tournant sur certains comportements stéréotypés sur lesquels, du coup, tu vas, entre guillemets, cocher les petites cases de « je fais partie de cette communauté, de ce groupe de personnes », etc. Et je pense que, bah, pour moi, la broderie, enfin, broderie, tricot, crochet, couture, tout ça, ça rentre un peu dans ce truc-là de « tu es une femme, donc on t'attend un peu au tournant sur le fait que tu pratiques ce genre de choses parce que tu es une femme ». Bon, là, du coup, je parle dans mon expérience, en tout cas, de femme cis, où moi, je me sens attendue au tournant sur ces questions-là, tu vois. Et où, du coup, je pense que c'est pour ça que je m'y suis mis aussi tard. Bon, après, encore une fois, je n'avais pas de gens de mon entourage qui faisaient de la broderie avant. Donc, du coup, c'était pas forcément un truc où j'ai foncièrement dit non, c'est juste que je l'avais pas devant moi. Mais je pense qu'il y a quand même ce truc que si j'ai pu m'y mettre il y a 3 ans, c'est parce que j'avais déjà fait ce taf, entre guillemets, de me recentrer un peu sur bah en fait c'est pas parce que je fais partie de telle catégorie minorisée de la population et que du coup on m'attend sur ça que je dois forcément aller à l'inverse de ce qu'on attend de moi parce que j'ai des trucs à prouver ou parce que je veux bah fermer la bouche de tout le monde, tu vois. Et ça, je pense, c'est important. Enfin, en tout cas, moi je pense que ça a été déterminant dans mon cheminement. On a toujours un peu ce moment-là dans notre vie où on est en mode je veux pas être un cliché de ma condition, entre guillemets. Je veux pas donner raison aux personnes qui me traitent littéralement comme un cliché ambulant, parce qu'en fait, le vrai problème, il est là, hein. Il est de la part des gens qui regardent et pas des gens qui sont de l'autre côté du regard, quoi. Mais c'est quand même comme ça qu'on réagit souvent, parce que bah, on n'a pas envie de donner raison, entre guillemets, à nos détracteurs, et du coup, on va aller chercher à incarner totalement l'extrême inverse, alors que des fois, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'être ou ce qu'on a envie de faire, quoi. Et du coup, je pense que, enfin, moi, en tout cas, j'aurais pas commencé la broderie si j'avais pas eu ce travail-là de fait avant, au niveau personnel, en mode, bah en fait, je vais pas m'empêcher de faire quelque chose parce que c'est cliché,
ouais, ce principe que
parce
qu'on
que,
attend.
voilà.
Moi, je l'ai vécu un peu à l'inverse, au final. Mais dans le sens où c'est pas du tout ce qu'on... Je l'ai pas du tout ressenti comme un truc qui était lié à ma condition, qu'on attendait de moi et tout. Mais parce que bah, j'ai toujours connu les femmes de ma famille, genre parce que ma mère, ayant été élevée par ma grand-mère, du coup, c'était tout du côté maternel, elle aussi était capable de faire la broderie, de la couture. Et en fait, chez moi, tout le monde faisait ça par plaisir. Ma grand-mère, elle faisait de la couture parce qu'elle voulait être costumière, tu vois. Donc, c'était pas du tout un truc que j'ai associé, en fait, avec une condition domestique. Au contraire, genre, pour moi, c'était genre un petit peu le summum de l'expression de créativité et de la façon dont je l'ai connue dans ma famille. C'était l'activité artistique principale, en fait, avec la peinture, du côté de mon papa. Et du coup, pour moi, c'était vraiment cool. Et c'est plutôt quand moi, j'ai commencé à le faire que j'ai subi un regard extérieur un peu qui était justement très caricatural. Genre, j'ai encore eu de la chance, je pense, parce que c'est un peu à la période où, c'est clairement en fait à la période où aussi le crochet est arrivé à la mode, où tu trouvais même en fast fashion des vêtements en imitation de crochet, etc. Donc, je n'en ai pas trop souffert, mais clairement, alors, ça n'a jamais été malveillant, hein. Heureusement, parce que ça venait quand même de personnes proches, mais c'est vrai que genre, je l'ai eu la vanne de ça va mamie, tu vois. Et clairement, je l'ai eu plusieurs fois. Genre, et le problème, c'est que j'ai un peu cumulé, tu vois. Genre, typiquement, je veux dire, moi, du coup, maintenant, je vis à Bruxelles, donc je veux dire, mes proches, je les vois pas tant souvent. Et notamment des potes que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, que j'ai gardé du lycée ou autre. Et quand je parle de mon quotidien ici, c'est vrai que je vais parler ben, soit de mon travail, soit de ce que je fais à côté. Et même si genre, j'ai quand même une vie sociale, je suis avec mes collègues et tout, c'est mes potes, c'est spécial. Mais genre, mes deux autres activités principales, ça va être le potager, si tu veux, et le crochet. Et genre, je fais de la marche nordique avec les bâtons aussi, tu vois, dans le parc d'à côté. Donc, genre, je ne bois plus d'alcool, donc nécessairement, genre forcément, je suis vieille parce que je ne bois plus d'alcool. Enfin, je suis forcément trop vieille. Je ne fais pas la, enfin, du coup, forcément, je ne fais pas la fête, ce qui est totalement faux, hein. Mais tu vois, t'as tous ces préjugés, ces a priori qui arrivent comme ça. Et alors moi, enfin, du coup, je l'assume complètement et j'en joue beaucoup et j'en rigole, hein. Parce que quelque part, je trouve que ça m'a aidée à me poser. Dans le sens où je me dis, bah, on me voit comme une petite mamie, autant assumer le truc à 100%. J'ai envie, je reste chez moi sous un plaid à faire du crochet avec ma tisane. Non seulement je vais le faire, mais en plus je vais kiffer mon moment, tu vois. Genre, je vais pas les laisser me gâcher ce plaisir. Mais c'est vrai que, genre, vraiment, à un moment, je me suis dit, putain, j'ai pas encore 30 ans. Est-ce que, genre, j'ai fait passer ma jeunesse un peu trop vite?
Oui, je vois. Bah, en fait, pour moi, ça soulève un truc qui, encore une fois, est bien plus large qu'une question de broderie, crochet, machin. Enfin, en fait, comment dire, quand on te ramène à un truc en mode tu fais une activité de grand-mère ou tu fais une activité de bonne femme, tu vois. En fait, le vrai problème, c'est ce qu'on met derrière ces mots-là. Parce qu'en vrai, tu peux faire une activité de grand-mère, mais en fait, pourquoi c'est mal d'être une grand-mère? C'est ça la vraie question. C'est parce qu'en fait, une femme âgée, encore une fois, personne n'aime les femmes. Enfin, tout le monde déteste les femmes. Et tout le monde déteste les femmes âgées. Parce que les femmes âgées, en plus de ça, elles ne servent plus à rien à la société dans les trucs pour lesquels les femmes servent
Ouais.
d'habitude,
Forcément,
c'est-à-dire
elles ne sont plus
être jolie.
sexualisées.
Et voilà, c'est ça, être jolie et se reproduire. Bah, du coup, quand t'as plus ça, en fait, littéralement, tu ne sers plus à rien. Donc, encore une fois, bien sûr que je ne le pense pas quand je dis ça, hein, on est d'accord. Mais pour caricaturer un petit peu enfin, même pas. Pour juste forcer un petit peu le trait de la société dans laquelle on vit, c'est quand même un truc qui est réel, ce truc de, bah, en fait, quand tu es une femme, prendre de l'âge, ce n'est pas la même chose que quand tu es un homme. Et en l'occurrence, bah, tu perds totalement le peu de considération sociale que tu peux avoir parce que tu es vieille, en fait. En fait, le vrai problème derrière juste, ah oui, on m'a traité de mamie parce que je fais de la broderie, par exemple, c'est pas tant le fait que je fais de la broderie, c'est le fait que on méprise les mamies, quoi. Comme on méprise les femmes au foyer, comme on méprise bah, les femmes tout court. Tu vois, c'est ce truc de genre, en fait, si j'aime pas, enfin, si à la base, j'aimais pas qu'on me dise ça, c'est parce qu'en vrai, On est dans une société où c'est pas des termes qui sont hyper cool, tu vois.
Je pense que les gens, ils ont. Enfin, en fait, c'est ça qui est triste, c'est que moi, c'est venu de personnes très proches et c'est clairement sur le ton de la rigolade, machin, tu vois. Et je sais que, genre, c'est pas forcément des. Les gens, ils ont pas forcément conscience de tout ça, en fait, quand ils font la vanne,
Oui.
vraiment, ils vont se dire. Mais là où je pense qu'ils n'ont pas forcément conscience non plus de l'impact que ça a, c'est que moi, effectivement, j'ai eu des problèmes de santé et sur le moment, je me suis sentie ultra diminuée, en fait. Genre, là, ça va mieux, je reprends vachement de mes anciennes activités, y compris physique, et genre, je ressens davantage. J'ai refait le cinéma, j'ai refait des concerts, genre, j'ai fait des trucs qui sont, genre, qui ont l'air tout bêtes, mais qui sont devenus des putains de dingueries dans ma vie. Et donc, je suis trop, trop fière de ça et j'ai vraiment le sentiment de reprendre le contrôle. Mais ça n'a pas été le cas et vraiment, pendant près d'un an, ça a été très, très compliqué. Et du coup, genre, que les gens, ils me fassent la vanne, je suis là, mais est-ce que vraiment, ça veut dire que je suis finie, tu vois? Est-ce que ça veut dire que mon corps, là, maintenant, c'est devenu le corps d'une personne âgée avec tout ce que ça implique, du coup, de non-productivité, de non-esthétique, enfin, de tous ces a priori négatifs, en fait, que les gens ont sur les personnes âgées et que, du coup, nécessairement, j'ai intériorisé, sans parler même du côté de productivisme, de, du coup, je ne sers plus à rien à la société, machin. Je suis juste un poids mort, enfin pas encore mort mais en devenir, genre c'est affreux et vraiment genre j'ai eu un peu genre j'ai d'abord eu le truc de merde ça veut dire que là en fait j'ai pas décidé mais en fait ma jeunesse est terminée, je ne vais plus pouvoir faire la fête, je vais plus pouvoir machin et après genre j'ai tous ces trucs-là. Alors, heureusement, c'était uniquement lié à mes problèmes de santé. Et genre, c'est quand même, je suis quand même vachement sortie de tout ça. Et je suis là, non, mais tout va bien. Je n'ai pas 30 ans et je suis encore jeune et je peux encore faire plein de trucs. Mais c'était vraiment un peu flippant. Et les gens, on pense clairement pas une seule seconde l'idée de ça. Mais genre, la vanne de ah, tu sors pas, tu préfères faire du crochet avec ta tisane, t'es juste une vieille dame. Et t'es là. Alors, tout ce que t'associes à vieille dame, là, tout de suite, dans cette remarque qui est faite. Pour rigoler, je le vis super mal.
Oui, et puis
Je
on va
le
pas
vis
se
juste
mentir, si
très
c'est
très
fait pour
mal.
rigoler, ça veut dire qu'il y a un truc négatif avec, avec le profil auquel tu me compares, sinon ce serait pas drôle, tu vois. Enfin, sinon ce serait juste
Oui,
une
c'est vrai.
comparaison, en fait, en mode ah oui, bah
Alors,
on
ce serait
dirait
même
machin.
un compliment.
Voilà,
Ou
c'est
un
ça.
compliment même, tu vois, genre si c'est dans l'extrême opposé ou c'est un truc de
C'est ça.
positif, tu
Mais
vois.
si en fait la personne dit ça en rigolant, c'est que au fond, et encore une fois, enfin, moi je suis vraiment pas pour commencer à aller tous se pointer du doigt sur ça, tu vois, parce qu'en fait, c'est des biais qu'on a tous et toutes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, on peut dire oui, la personne, elle n'a pas dit en pensant mal, et probablement, mais je pense qu'on peut quand même se permettre de décortiquer tout le schéma qu'il y a derrière qui
Ah
est
oui, totalement.
dégoûtant, en fait. Et du coup, se dire, bah, en fait, oui, il y a un moment donné, il faut effectivement tous un petit peu regarder ses pieds et se dire, ah oui, en fait, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai rigolé à cette blague, en fait? Parce que dans le fond, c'est pas si drôle et cette personne, potentiellement, le vit mal aussi, accessoirement. Et ça, c'est encore un autre level. Mais juste le fait de trouver ça drôle, bah, c'est juste admettre au fond que la comparaison que tu fais est dépréciative, quoi. Et que du coup, c'est pour ça qu'il y a un élément comique. Bon, après, voilà, je pense que c'est toute une réflexion qu'on a à avoir sur le temps qui passe et surtout le temps qui passe sur le corps des femmes. Forcément que ça vient d'un schéma bah, qui est un peu oppressif quand même envers les vieilles femmes. Et surtout les femmes, pareil,
Oui.
encore une fois, les femmes au foyer, elles ne sont pas forcément vieilles, tu vois. Mais il y a ce truc de ah oui, c'est un truc bah, de bonne femme, entre guillemets. Je ne sais pas trop quoi dire. Je sais que c'est horrible comme
Mais en fait,
formulation.
c'était. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, au final, tu vois, elles remplissent un rôle genré, elles remplissent un rôle sur lequel on les attend et qui est problématique aujourd'hui parce que les chaînes free, par exemple, elles peuvent être super mal vues. Enfin, tu prends des réflexions terribles et tout. Mais d'un autre côté, elles sont quand même pas encensées. Il n'y a jamais rien, en fait,
Oui.
de toute façon, qui peut être fait par une femme qui va finir par être positif. Et donc, comme tu dis, même s'il n'y a pas de méchanceté derrière, effectivement, genre, questionner un peu qu'est-ce qui fait que sur ce truc-là, tu vas faire une blague. Moi, j'ai senti la mécanique un petit peu quand je me suis réapproprié ces trucs-là. Genre, je sais que c'est un truc qui est quand même beaucoup porté par les humoristes et tout, où tu as quelque chose sur lequel tu vas te faire attaquer et que tu portes après comme étendard pour te protéger et toi-même en rigoler pour renvoyer un peu l'ascenseur et te réapproprier en fait les termes, etc. Et donc ça, vraiment, ça a été utile. Et maintenant, c'est un truc que je mets en avant, tu vois. Genre de dire, oui, genre, ma vie, elle est ça, même si mon âge correspond pas et que l'image que toi, tu en fais correspond pas en réalité parce que mon âge n'est pas censé correspondre à une certaine attitude. C'est de l'âgisme mais il n'y a pas de
Oui.
règles. Mais voilà, genre, oui, effectivement. Genre, vraiment, j'en suis arrivée à un schéma narratif humoristique où je suis là en mode, oui. ce que je fais ne correspond pas à ce que tu attends d'une personne de mon âge, c'est super rigolo, tu vois. Et
Oui.
où il faut essayer de désamorcer le truc, et voilà, et où tu te dis, bon, bah, au pire, si je, enfin, je veux dire, si je fais marrer les gens, tant mieux, tu vois, parce que je bois de la tisane et que je lis des recettes de... La cuisine aussi, je l'ai beaucoup avec la cuisine. Genre, chez les hommes, c'est grave stylé, chez les femmes, c'est maïté, tu vois.
Je vais reprendre ça parce que c'est, je veux dire, phonétiquement, c'est génial. Mais oui, c'est clairement ça. C'est clairement un sujet qui va arriver bientôt sur le podcast avec les femmes qui font toujours plus pour faire à manger à tout le monde, mais qui n'ont pas d'étoile Michelin pour ça. Mais donc voilà, c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment. Donc oui, tout à fait. Alors du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant, premièrement, les gens qui sont en mode, enfin, qui ont une façon de corréler l'âge à forcément un style de vie. Et puis en fait, après, voilà, quand t'as 25 ans, tu dois avoir cette vie. Quand t'as 30 ans, tu dois avoir cette vie. Quand t'en as 35, tu dois avoir celle-là. Franchement, leur vie, elle est triste. Et moi, je, ça y est, c'est plus mon problème, tu vois. Déjà, moi, j'ai fait mon choix là-dessus. Je vais pas débattre avec toi si déjà ta pensée, elle est coincée sur ça. Je peux plus rien pour toi, en fait. Il y a un moment donné, on se gère chacun, chacune. On est tous adultes. Donc moi, j'ai pas de temps pour ça. Premièrement, et je pense qu'effectivement, leur vie est très triste parce que la vie, c'est pas une checklist en mode, alors on est à telle étape, donc la mort, c'est dans X temps. Donc maintenant, il faut que je fasse ça. Non. En fait, ça demain... enfin, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Et puis, bah après, enfin, c'est marrant parce que moi, du coup, j'ai pas forcément eu la même façon de me réapproprier ce truc-là, parce que c'est pas que j'en ai rigolé, mais en fait, j'étais plus en mode, bah, genre, en fait, moi, je vois pas ce qu'il y a de problématique à avoir ce mode de vie-là. Tu penses que c'est un mode de vie de mamie, si tu veux, mais genre, clairement, enfin, en fait, moi, je pense que c'est ce que je disais juste avant. Il y a ce truc de, comme j'avais déconstruit un peu, enfin. Je peux jamais mettre ça complètement au passé parce que tu finis jamais de déconstruire. Mais quand j'avais commencé à travailler du coup sur ce truc de bah en fait oui prendre de l'âge c'est pas si grave et puis c'est la vie c'est normal et puis ton corps il change et puis en fait tes goûts ils changent et ton style de vie il change. Bah une fois que tu as fait ce travail-là après bah ce genre de carcan dans lequel on te met bah c'en est plus vraiment un pour toi à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait tu es en mode bah oui si tu veux tu vois c'est un mode de vie de mamie mais en fait déjà, non, pas forcément, parce que clairement, factuellement, c'est faux, tu vois. Mais au-delà de ça, mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait? Elle va mener où cette discussion? Parce que, effectivement, à part si c'est pour te moquer de moi, il n'y a pas de suite à cette phrase, tu vois.
La remarque, la blague n'existe plus à partir du moment où c'est quelque chose qui fait plus sens pour toi, quoi.
C'est ça. Et donc, du coup, ouais, j'avoue que je ne suis pas passée par ce stade de désamorcer la blague en la faisant moi-même, tu vois. Enfin, voilà, ma propre truc en mode, ah bah oui, je suis une mamie. Après, des fois, je le dis un peu, je suis en mode, ah oui, bah oui, clairement, moi, bien sûr que là, en ce moment, il fait froid. Je préfère boire du thé sous mon plaid et faire de la broderie que de sortir avec vous. Oui, bien sûr, tu vois. Et c'est comme ça, et j'en rigole et tout. Mais en fait, c'est vrai, clairement, bien sûr, je préfère ce moment-là en ce moment parce qu'il fait moins 20 000 là. Mais oui, je pense qu'il y a un truc à faire avec ces sujets-là où en fait, tu es obligé à un moment donné pour faire ta paix, bah, de faire ton taf de ton côté. Et puis après, les gens, s'ils le font pas en face de toi, bah c'est tout tu vois enfin j'ai envie de dire tu peux pas sauver tout le monde et surtout quand ça te concerne toi personnellement il y a un moment donné tu peux pas non plus aller sauver tout le monde alors que toi ça te touche littéralement parce qu'ils sont en train de se moquer de toi tu vois enfin je pense qu'il
Oui, non.
faut gérer son énergie et l'économiser et là en l'occurrence il y a un truc autour de au-delà de l'âge je trouve autour du fait que bah enfin encore une fois moi la sphère domestique je trouve qu'il y a vraiment un truc parce que moi, un des trucs que j'ai eu du mal à m'approprier, par contre, pour la broderie, et que maintenant, ça y est, je suis enfin dans un mood, voilà, je vais faire un truc... Enfin, je fais de la broderie dans une perspective artistique, et je m'en fiche de ce que les gens peuvent en dire, je m'en fiche des gens qui sont en mode, c'est de l'artisanat, c'est pas de l'art, et puis à commencer à aller se battre à coups de Larousse et de Robert pour savoir qui a raison sur la définition de l'art, tu vois. Moi, franchement, j'ai pas le temps pour ce genre de débat, mais je trouve qu'il y a quand même un truc sur ces pratiques-là qui... comme elles sont dans la sphère domestique, du coup, ne sont pas forcément vues comme des pratiques artistiques, en tout cas pas par tout le monde. Et il y a vraiment des débats, genre, moi j'ai eu des débats avec des gens, et je vois des débats sur Internet de gens qui sont en mode, non, mais it's craft, it's not art, était là, mais en fait, ça peut pas être les deux, genre, c'est possible que ce soit les deux, tu vois. Et en fait, c'est pas parce que, bah, effectivement, même en vrai, si tu fais de la broderie sur une paire de chaussettes, je vois pas à quel moment Il y a un truc qui est dévalorisé sur cet objet-là parce que tu vas le porter ou parce que tu vas l'offrir à ta cousine, tu vois. Et
Et
y a quand même
surtout
un truc.
quand tu vois certaines merdes, enfin, genre, je veux dire, c'est très subjectif, hein, là, on est dans le subjectif, mais quand tu vois certaines productions, pardon, d'art contemporain, où on va dire ça, c'est de l'art, et tu vas me dire, attends, ça, c'est plus de l'art que les petites fleurs, là, que je viens de faire, qui sont juste beaucoup trop mimes sur une paire de chaussettes.
C'est clairement ça. Et tu vois, et je pense que du coup, ces pratiques-là, elles sont un peu. Elles bénéficient pas du tout du fait d'être associées à la sphère domestique parce que du coup, c'est vu. Alors, déjà, de un, c'est vu comme un truc de femme. Donc, forcément, c'est moins professionnel parce que ça, c'est avéré. Et il y a 20 000 études pour le prouver. Donc, enfin, pour asseoir ce que je suis en train de dire. Donc, voilà, je ne vais pas faire semblant que c'est moi dans ma tête qui a pensé ça. Mais enfin, en fait, quand quelque chose est féminin, c'est forcément moins pro, c'est forcément moins sérieux, ça a forcément moins de valeur. Tu penses une cuisinière, tu penses à la dame de la cantine, tu penses à un cuisinier, tu penses à je sais pas quel chef étoilé parce que je retiens plus les noms des hommes maintenant, j'ai décidé. Mais du coup, tu n'as clairement pas le même truc. C'est-à-dire que tu penses cuisinier, tu penses à un mec qui bosse dans un resto, tu penses cuisinière, tu penses à la meuf qui te donne tes barquettes à la cantine. C'est tout. C'est comme ça. En fait, c'est juste des images tu vois, qu'on a dans la tête. Tu vois, de la même manière que tu vois couturier, tu vois grande maison de couture, tu vois couturière. Tu vois la meuf à qui tu vas donner ton pantalon pour faire un ourlet. Et c'est comme ça, en fait, dans la tête des gens, il y a ce truc de forcément, non seulement c'est moins pro, mais en plus, c'est moins valorisant. Et tu vois, tu parlais de la cuisine tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai pensé à faire ce parallèle-là, parce que je lisais un bouquin l'autre jour qui s'appelle Féminisme, je crois, c'est celui-là. Elle en a écrit deux, cette journaliste, donc je ne sais plus lequel c'était. Féminisme, mais écrit FIM. Et Inist, où en fait elle expliquait que, enfin, où carrément elle citait des grands chefs, voire des fois des critiques culinaires, mais bon, du coup, qui datent d'il y a 20-30 ans, tu vois. Mais je pense qu'en vrai, c'est juste que maintenant tu peux plus dire ça à la télé, mais juste tu vas pas aller le dire dans une interview, dans un journal, parce que tu sais que tu vas te faire cancel la gueule et ce sera bien fait, tu vois. Mais du coup, il y a vraiment des citations de mecs qui sont en train de dire non, mais en fait, les femmes, bien sûr qu'elles cuisinent bien, mais en fait, c'est pas la même chose que quand les hommes cuisinent. Parce que les femmes, elles vont faire des trucs pour la famille, elles vont faire des trucs, tu vois, un peu, comment dire, par automatisme, voilà, des grands plats de bouffe un peu généreux, machin, mais ce sera pas fin, mais ce sera pas technique. Et du coup, en fait, elles font un truc parce que c'est un peu leur nature de nourrir la planète, tu vois. Mais quand les hommes le font, il y a une intention derrière qui est artistique, qui est esthétique, qui est, bah, du coup, voilà, une recherche de saveur, de machin. Et en fait, les gens n'avaient pas de problème à dire ça en public, quoi. Et je pense pas qu'en 30 ans, il y a un moment donné, il faut arrêter les mentalités, ça ne change pas en 30 ans, ça change en échelle de siècle, tu vois. Mais du coup, bien sûr qu'il y a ce truc quand même que quand tu as un pot de yaourt qui est marketé, enfin, comment dire, pour une femme, c'est la laitière, tu vois. Et l'autre jour, j'ai vu une pub de yaourt où
Ou
c'était
alors
marketé
des
par.
yaourts minceurs. Ou alors des yaourts minceurs.
Exactement.
Enfin, c'est soit la laitière, soit tu dois maigrir avec tes yaourts.
Voilà, c'est ça. Alors que quand c'est un homme, moi une fois j'ai vu il y a quelques années une pub de yaourt sur YouTube où en fait c'était un truc genre un pot hyper minimaliste tout blanc avec genre deux trois trucs écrits en noir dessus en mode et c'était un gars qui présentait son yaourt en mode voilà un yaourt genre avec tout ce qu'il faut dedans mais dans la simplicité, pas d'additifs, pas machin et tout. Et c'était super, tu vois, la pub elle était en noir et blanc, le mec il était bien sapé et j'étais en mode et eh oui, et nous on a la laitière, tu vois, ou Mami Nova. Il y a vraiment ce truc, encore une fois, bah, en fait, quand c'est une femme, c'est moins technique, ou en tout cas, il y a moins comme tu disais, en fait, tu as trouvé exactement le mot juste qui décrit ma pensée, il y a moins de noblesse, en fait. Et il y a moins de ce truc de, bah, il y a une intention artistique derrière, il y a en fait, si tu fais de l'art, limite, t'as pas fait exprès quand tu es une femme, tu vois, ça s'est fait un peu comme ça, en mode,
T'as eu de
oups,
la
tu vois,
chance.
c'est ça. Mais c'est pas en mode toi, t'as voulu insuffler un truc de ouf à ton œuf parce qu'en fait, why? Pourquoi? Tu vois?
Mais c'est horrible parce que en plus je trouve que t'as vraiment enfin il y a vraiment un sentiment de perte sur les deux, enfin pas de perte sur les deux tableaux, mais genre moi il y a une incohérence en fait dans ce discours qui me rend folle. Alors s'il y en avait qu'une, hein, ce serait très bien, mais il y a parmi toutes les injustices et les incohérences que ça transporte, il y en a une en particulier vraiment qui me rend folle, c'est que d'un côté tu vas être dans un système où tu vas dire bah, la couture, la cuisine, c'est des trucs que les femmes font. Parce qu'elles sont destinées à ça. Genre, il y a un côté, c'est plus de l'injonction à ce stade, c'est vraiment. Enfin, il y a un truc où, genre, c'est
C'est
ce côté un peu.
de... Ah
J'ai
merde.
plus le terme, genre.
Bah c'est inné quoi, c'est ça fait
Inné,
partie
voilà.
de
Genre,
pourquoi tu écris
comme
quoi.
l'instinct maternel, comme tout ça, ça fait partie de toi, genre. Et d'un autre côté, genre, c'est censé être inné, mais t'as pas le droit d'être trop bonne à ce que tu fais non plus. Tu vois, c'est dans ta nature, mais avec un seuil de qualité qui est quand même. Que tu peux pas dépasser. Genre, c'est même pas cohérent. Comme raisonnement, comment est-ce que tu peux être censé
Oui.
avoir un truc qui est inné et que d'autres personnes pour qui du coup c'est pas inné, hein, ils sont dans dans l'effort, genre ils vont chercher le truc et ils sont meilleurs que toi. Genre c'est vraiment
Ouais.
parce que c'est des hommes, par définition, point. Genre c'est terrible.
En fait, pour te répondre rapidement, moi je vois une cohérence là-dedans quand même si c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, pourquoi faire les choses simples? En fait, je pense qu'il y a quand même une cohérence dans le sens où certes, les femmes, par essence, vont voilà, faire la cuisine, vont faire... Même les bails dont on parle depuis tout à l'heure, les pratiques un peu... qui sont pas de l'ordre du nécessaire, tu vois, mais voilà, coudre des vêtements, habiller les enfants, habiller toute la famille, faire des petits trucs sur les nappes et tout. Bah, en fait, pour moi, il y a une cohérence dans le sens où, ok, mais ça, c'est dans la sphère domestique et ça répond à des besoins, tu vois. C'est en mode, il faut se nourrir, il faut gérer sa maison, machin. Par contre, là où les hommes apportent un truc, entre guillemets, enfin les hommes... qui pratiquent ces trucs-là apportent un truc, c'est que c'est pas eux, c'est pas une sphère domestique, c'est une sphère professionnelle, c'est une sphère artistique pour certains cas. Et donc du coup, il y a ce truc que oui, en fait, c'est pas la même chose de faire une plâtrée de quelque chose pour nourrir tes gosses. Et encore, moi je dis ça, enfin je me mets à la place, tu vois. Enfin je dis pas que je le pense parce que en vrai voilà, cuisiner pour ta famille, c'est cuisiner quand même et ça reste quelque chose, enfin une activité clairement. Qui a de la valeur et je vois pas en quoi ça a moins de valeur que de cuisiner pour des gens qui payent 50 balles leur menu en fait. Enfin, je pense qu'il faut pas faire de comparaison comme ça et de hiérarchisation. Mais en fait, tu vois, c'est des trucs pour lesquels typiquement elles ont pas de merci parce que c'est normal de le faire et que c'est pas considéré, par exemple, juste pour prendre le cas de la cuisine, de base, c'est pas considéré comme de la bonne cuisine. Genre, c'est considéré comme de la cuisine familiale. Et par exemple, les restos familiaux, en fait, dans la tête des gens, un resto familial, c'est pas un resto de grande cuisine. Et c'est pas. Et dans ta tête, tu pars avec l'idée que c'est moins bon que ce que tu vas manger dans un autre resto, parce que c'est un truc en mode, bah du coup, ce sera de la bonne quantité parce que c'est familial et que c'est censé te remplir, tu vois. Mais ce sera pas forcément fin, ce sera pas forcément au niveau des saveurs hyper recherchées, tout ça, parce que c'est familial. Et je pense qu'il y a ce truc où, du coup, comme tu es une femme et que tu es dans ce truc de la famille et la sphère de la domesticité, quelle qu'elle soit, hein, parce que tu peux nourrir tes gosses, mais tu peux aussi nourrir ton père et tes frères et tout ce que tu veux. Et c'est le même schéma qui se passe, tu vois. Mais c'est qu'en fait, tu as ce truc que, bah, de toute façon, c'est dans la sphère domestique, donc ce n'est pas de l'art et ce n'est pas. Et toi, tu n'apportes, enfin, tu n'insuffles pas ce truc-là artistique à ta pratique. Parce que c'est pour répondre à un besoin, c'est pour répondre à une commande. Voilà, j'ai faim, bah, je fais à bouffer, tu vois. C'est tout.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, comme c'est fait pour un but purement pratique et logistique, nécessairement, en fait, s'il n'y a pas de créativité. Et du coup, comme il n'y a pas de créativité parce que tu es uniquement dans la production, enfin dans la réponse à un besoin, sans créativité, c'est pas de l'art. Sauf que tu peux faire les deux, en fait.
Oui, c'est
Et c'est
ça.
ça où il y a la... Mais du coup, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est le fait que tu répondes à un besoin, il n'y a plus la créativité. Et sans la créativité, il y a plus l'art. Sachant que mais déjà, il n'y a pas de raison pour que ben, les femmes, moins que les hommes, ne puissent pas faire des choses qui ont à vocation purement créative. Le problème, c'est que surtout, comme c'était elle qui était obligée de se charger de toute la logistique, ben, il leur laisse plus le temps.
Oui.
Et il
Ah
leur
mais
laisse
oui.
plus le temps pour le purement créatif. Donc, forcément, comment est-ce que ça pourrait prendre une place à un moment donné? Enfin, des fois, tu vois, tu peux vraiment entendre des absurdités de oui, mais elles n'ont pas le même palais. Oui, mais il y a des trucs où vraiment tu te dis, mais c'est pas possible,
Oui.
quoi. Quand tu as des règles, tu n'as plus les mêmes sensibilités, du coup, tu peux être. Enfin.
Oui,
Mais
puis
d'ailleurs,
même
dans
sans
certaines.
les règles, c'est en mode les femmes, comme elles sont gouvernées par leurs hormones, du coup, leur palais il change et tout. Mais genre les hommes, ils ont pas d'hormones, tu sais. Enfin, s'il te plaît, quoi. Enfin, il y a un moment donné, non, non, non. C'est juste. Après, on est habitué aux arguments, pardon, éclatés au sol pour justifier à peu près tout. Mais ceux-là, ils sont quand même incroyables, ce truc de oui, en fait. Mais pour tout, après, pour tous les arts. Et en fait, moi, c'est pour ça aussi, je voulais un peu parler dans cet épisode. C'est ce truc de, il y a ce truc de déjà se réapproprier la pratique. Donc ça, on en a pas mal parlé. Et puis il y a le fait de genre s'asseoir un peu dans son rôle d'artiste. Parce que du coup, moi, pendant un moment, et ce que je disais tout à l'heure, moi, ça fait quelques mois que je dis, ah, je suis brodeuse, alors qu'en fait, je suis brodeuse depuis 3 ans. Enfin, il y a un moment donné, voilà, là encore plus parce que c'est mon métier, mais même avant, quand c'était pas mon métier, j'arrivais pas à le dire parce que je me disais, non, mais moi, je fais des trucs sur mes vêtements, je fais des trucs, des petites décos comme ça pour la maison, mais voilà, encore une fois, ça reste sphère domestique et tout. Et en fait, le moment où ça a commencé à changer un peu dans ma tête, c'est quand j'ai fait une exposition du coup à Arles plus tôt dans l'année, où là, en fait, ça a été vraiment exposé dans un endroit où c'était prévu pour être de l'art, et où du coup, bah, en fait, ça a choqué personne, et les gens sont venus me voir en mode ah, mais ce que tu fais, c'est trop bien, j'ai eu plein de super bons retours sur mon travail, et du coup, j'ai vraiment ce truc de ah, en fait, bah, là, je l'ai présenté comme de l'art, et les gens ont pas tiqué en se disant mais qu'est-ce que ça fout sur un mur, tu vois. Et du coup, c'est pas à ce moment-là que j'ai commencé à dire que j'étais brodeuse, mais c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah, en fait, je pense que va falloir que je me réapproprie ce terme aussi, parce que de fait, c'est pas juste effectivement un truc que je fais à l'aiguille qui n'a pas de. Enfin, en fait, déjà, j'y mets un sens derrière, et puis en plus, je brode pas en général. Enfin, moi, je trouve que peu importe ce qu'on fait, en fait, dans ces disciplines-là, que ce soit la broderie, le tricot, le crochet, la couture, même enfin le dessin et tout ça, en fait, il n'y a jamais rien qui est complètement gratuit, tu vois. Il y a toujours une intentionnalité derrière. Peu importe ce que c'est, tu vois, ça n'a pas forcément besoin d'être un truc qui fera sensation sur un petit carton d'exposition à côté de ton truc, tu vois. Mais en fait, il y a toujours une intentionnalité et je pense que personne n'a le droit de juger si cette intentionnalité, elle est valable ou pas et si, du coup, elle te donne le droit d'accéder au rang des artistes, tu vois.
Vraiment, moi, l'idée que j'en ai aussi, tu vois, c'est que la différence, elle va se faire au moment où tu vas mettre de la créativité, en fait. Si tu es dans la création, forcément, tu es dans une certaine mesure investi émotionnellement. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, en fait, quand tu crées, qui vient de toi. Tu donnes un peu de toi. Et donc, nécessairement, à ce moment-là, ça fait partie d'une activité artistique. Et puis, même si c'est très facile de trouver des différences entre l'art tel qu'il peut être perçu et défini par d'autres personnes, je trouve qu'il y a des choses aussi sur lesquelles c'est facile de faire le lien, en réalité, entre des productions dites artistiques et d'autres qui ne le sont pas, en tout cas, qui sont, comme tu le disais, limitées du craft à la sphère domestique, dans le sens où c'est des pièces qui vont être uniques. La plupart du temps, enfin, en fait, toujours unique, parce que même si tu fais un produit à la chaîne, à partir du moment où c'est fait main, tu auras forcément des micro-détails qui feront que. Il y a le temps que tu y investis, parce que voilà, ça va être très pratique et très joli. Effectivement, le vêtement, tu vas le porter, tu vas complètement oublier, tu le passes, tu le retires, toi, les broderies, c'est pareil, c'est des choses que tu vas manipuler dans le quotidien, mais en réalité, genre, à produire, ça prend des heures, des jours, des semaines. Et pour moi, ça, c'est de l'art, tu vois. À partir du moment où, comme ça, il y a ton propre regard qui va faire partie de ce que tu produis nécessairement parce que tu vas mettre un peu de toi et la pièce unique et le temps investi, t'es dans une production de création, même si tu restes dans la sphère domestique. Et donc, je pense que là où ça permet aussi de le sortir, c'est de le montrer à d'autres personnes. Ça va être moins de l'art si ça reste dans la sphère domestique, mais si ça reste dans le regard de la sphère domestique également. Mais à partir du moment où tu as cette production et tu es capable de la sortir de cette sphère-là, ça va permettre aussi de lui donner une autre stature, en fait.
Bah du coup, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et en plus, bah, c'est ce que je disais juste avant. Moi, il y a vraiment eu ce besoin à un moment donné que j'avais pas identifié parce que je ne savais pas, mais qui s'est un peu fait malgré moi. Ou du coup, bah, en ayant ce truc d'exposition, j'ai capté que ça avait vraiment, comme tu dis, un peu exporté ce que je faisais de la sphère du domestique vers la sphère publique, où là, du coup, ça devient un objet qui peut être regardé en dehors de son utilité primaire, quoi. Et se dire, bah, en fait, on va l'apprécier comme un objet sans utilité. Et c'est un peu ça, les objets d'art à la base, c'est que ça ne doit pas être utile, ça doit pouvoir se suffire à soi-même. Ça peut avoir une utilité de fait après, mais ce n'est pas censé forcément être utile. Et du coup, bah, le fait de l'avoir mis enfin, sur ce mur, de l'avoir affiché, ça l'a mis dans cette situation-là où les gens le regardaient non pas comme voilà, un truc que tu as brodé sur ta nappe ou non pas comme une petite déco que tu as mis pour décorer tes toilettes, tu vois, mais juste un truc, ah ok, en fait, c'est quelque chose qui peut avoir un message et tout. Et moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, qui sont venues vraiment m'expliquer ce que ça leur avait fait ressentir et ce qu'ils avaient mis derrière. Et en fait, c'est pas forcément ce que moi j'avais mis derrière ce truc-là, mais c'est vraiment ce moment où bah, c'est passé dans leurs yeux à eux et c'est devenu autre chose. Et je pense que. Et en plus, c'est marrant parce que cet événement-là, c'était pas censé. Enfin, moi, comment je l'avais envisagé à la base, c'était pas du tout de faire une expo, je voulais faire des ateliers. Et en fait, on m'a dit, oui, ce serait bien de faire vraiment un week-end complet où tu as expo-atelier. Et du coup, l'expo, elle s'est un peu faite, entre guillemets, malgré moi. Enfin, moi, je dis, ah bon, bah, si je dois exposer, j'expose, tu vois. Mais... Et au final, c'est ça que j'ai le plus retenu de ce week-end, quoi. C'était vraiment, ah, en fait, ouais, c'est de l'art et ça a une valeur artistique, quoi qu'on en dise. Et c'est pas juste de l'artisanat, c'est pas juste un hobby, un loisir, c'est pas juste du loisir créatif, tu vois. C'est vraiment quelque chose, enfin, une activité dans laquelle tu peux vraiment insuffler un truc avec une intention que ce soit un objet d'art, quoi, ou un objet esthétique.
Pardon. Avec le crochet, les vêtements, moi, c'est un peu difficile parce que pour le coup, tu produis vraiment un objet qui est voué à être utilitaire, quoi. Genre les vêtements, ça t'habille. Donc, quand je reproduis des patrons déjà existants, je l'ai un peu moins. Par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où je suis dans la production du patron, bah, les formes, c'est moi qui les choisis, les couleurs, c'est moi qui les choisis. Donc, c'est toujours pareil. Enfin, il y a cette notion du coup d'investissement et de créativité qui n'est pas la même et pour laquelle je vais avoir plus de liberté, où là, j'ai plus l'impression. De sortir de ce côté-là un petit peu de bon, genre, je suis contente, je me suis fait un pull, je vais avoir chaud cet hiver.
Oui, tout à fait. Mais du coup, pour terminer un petit peu cette discussion, il y a eu ce truc de pourquoi est-ce qu'on a commencé, un peu le cheminement qu'on a eu, mais je pense que du coup, aujourd'hui, toutes les deux, on arrive à un stade où on a quand même des intentions plutôt claires sur ce qu'on met derrière, et en tout cas, même si c'est en réflexion, on a quand même amorcé ce travail de, bah, c'est pas juste un truc, encore une fois, qu'on fait pour s'occuper les mains, c'est pas juste un truc qu'on fait pour passer le temps quand il fait froid dehors, il y a vraiment
Même
un
si ça
projet.
remplit aussi très bien ses
Bien
fonctions.
sûr, bien sûr, bien sûr.
Mais ouais, mais moi en plus c'est cool parce que genre, je suis contente de pouvoir en parler parce que c'est un truc que j'ai vachement questionné justement ces derniers temps. Et je crois que même avec toi, j'ai pas trop eu l'occasion d'en discuter. Ça, c'est des trucs que j'avais déjà pu dire avec toi, mais que vraiment par contre, ouais, ça me permet d'insuffler de la créativité alors que j'ai un métier dans lequel j'ai pas du tout le sentiment de pouvoir en mettre. Je suis dans quelque chose de très analytique, de très réflexion, très intellectualisé, où vraiment, genre, je fais des observations, j'en tire des conclusions, je fais des nouvelles thèses, j'ai des observations, des conclusions, genre, c'est très cyclique comme ça. Et donc, je peux pas y mettre beaucoup de ma personne, et donc j'ai retrouvé ça. Et puis, vraiment, ce côté très sensoriel, où je vais être beaucoup plus ancrée dans le présent, dans les sensations, dans ce que je suis en train de faire, dans l'action. Lorsque je peux travailler le fil. Et donc, ça m'a permis pendant longtemps de garder justement un équilibre avec mon travail. Et en fait, j'ai eu le sentiment, et à raison, hein, qu'à un moment, ça a pris trop de place et ça a vraiment basculé. Moi, j'étais super contente d'en faire beaucoup et j'avais super envie d'en faire. Peut-être pas mon métier à temps plein, mais en tout cas d'y investir suffisamment pour que ça devienne une activité complémentaire, etc. Sauf qu'avec ma thèse, c'est évidemment pas autorisé. Mais il y a eu un moment où j'ai voulu tout préparer pour, tu vois, où j'étais là en mode, ok, ça sera une activité complémentaire et il faut que je la prépare maintenant. Et où du coup, genre, je finissais un projet, j'étais déjà en train de réfléchir au suivant, où je réfléchissais les publications que j'allais en faire, les photos que j'allais mettre sur Insta, genre les likes et tout. Et genre, j'étais rentrée un peu dans ce truc de. Genre, je commençais à réfléchir direction artistique aussi, tu vois. Genre, j'ai pas fait compte propre à ça, justement, parce que ça m'aurait servi à rien, puisque de toute façon, je pouvais pas aller plus loin. Mais c'est plein de questions que je me suis posées et tout, et qui me prenaient vachement de temps au quotidien et vachement d'énergie aussi, hein. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Que c'est un boulot à part entière, tous ces trucs-là. Sachant que ma thèse, en soi, c'est déjà un taf, hein, et ça me prend déjà. Enfin, c'est déjà un projet d'auto-entrepreneuriat, juste que ça s'arrête au bout de 4 ans, mais c'est ton projet, c'est toi qui le portes. Si tu le fais pas, personne va le faire à ta place. C'est toi qui gères ton temps. Enfin, moi, je trouve que t'as quand même sur un quotidien, sur un style de vie, beaucoup de similitudes entre l'auto-entrepreneuriat et un doctorat. C'est un truc sur lequel j'échange beaucoup avec mon papa. Et en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte que j'ai commencé à genre juste démarrer un deuxième projet d'auto-entrepreneuriat dans le plus grand des calmes, quoi, en essayant de me lancer un peu trop dans le projet. Et où vraiment, il y a un moment où j'ai commencé à me mettre la pression, tu vois. Le moment où j'ai senti que je dépassais mon état de fatigue en mode, oui, je suis crevée, mais typiquement l'année dernière. Mais il y a Noël qui approche. Il y a les doudous pour les nounours que je dois finir pour les petits. Il y a le cadeau que je dois finir pour ma mère. Il y a le projet perso que je dois publier sur ma page, qu'il faut que je termine aussi et tout. Et où, genre, je me suis laissée, mais complètement débordée. Et où j'étais là, ok, genre, juste, ça va pas du tout. Je prends plus de plaisir. Ça me fatigue de trop. Il faut que j'arrive à remettre les choses à leur place et à lever le pied un peu par rapport à ce truc-là, parce que j'étais tombée dans le surinvestissement complètement. Et je pense que si je faisais que ça, j'aurais pu m'en sortir, tu vois, et j'aurais quand même gardé le plaisir. Mais là, j'arrivais plus à tout gérer de front. Et en fait, juste, j'avais les batteries qui étaient complètement à plat et j'avais plus aucune ressource, en fait. C'est ça le terme que je cherche, j'avais plus de ressources. Et après, je suis contente parce que ça m'en a pas non plus dégoûtée. Voilà, c'est un peu le truc qui m'a fait peur quand j'ai eu ce truc-là. Et en fait, non, j'ai juste ma pratique a un peu évolué dans le sens où j'écris plus de patrons en ce moment, où je vais démarrer peu de nouveaux projets. Genre, je vais pas aller dans la recherche de conception de nouveaux patrons, de nouveaux projets, où je faisais les boutiques pour aller chercher des idées dans les boutiques de fringues, où je réfléchissais mes achats de fil en fonction, où je dessinais des patrons, etc. Je suis revenue à vraiment plus des bases de la pratique que j'avais. Déjà, j'utilise mes réserves, hein, parce que je pense que j'ai assez de laine pour tenir très très longtemps. Mais surtout, je vais ben voilà, rouvrir des magazines de patrons que j'ai déjà, prendre beaucoup de projets que j'ai commencé et pas fini, hein, un classique.
Oui,
On
en effet.
a tous des piles en réalité quand tu te lances un peu dans ce genre d'activité, parce que tu vas être super excité par l'idée d'un nouveau truc et tu vas laisser celui que tu as en plan en disant « Ah, j'y reviendrai plus tard ». Et puis en fait, ça continue, ça continue. En fait, tu as des caisses, tu as des tiroirs remplis de projets en cours. Donc je les termine, je ressors ça, et en fait souvent c'est des projets pas ceux que j'ai dans les pas ceux dans lesquels je m'étais lancée toute seule, parce que dans ces cas-là c'est beaucoup d'essais, erreurs, de je recommence machin, j'ai pas les nerfs. Mais je prends des petits projets comme ça tout simples que j'avais déjà commencé, qui étaient basés sur un patron qui était bien clair machin, et que j'avais laissé tomber pour plein de raisons, parce que j'avais lancé quelque chose d'autre, parce que j'avais plus le fil qu'il fallait, parce qu'à un moment j'avais plus rien compris au patron et ça m'avait saoulée. Et genre je suis là, ok, chaque petit projet après l'autre, je vais regarder où est-ce que j'en étais, je me réapproprie le truc et je le relance et je fais à mon rythme. Et en réalité, en fait, même comme ça, genre, je continue de produire. Là, j'ai bien deux, trois vêtements que j'ai terminés. Mais là, celui que bah, toi, tu me vois, les gens qui nous écouteront ne me verront pas. Mais genre là, celui que je
Wow.
porte, c'est un
D'accord.
que genre, j'avais commencé au printemps dernier et que j'ai terminé genre, pour l'automne
Wow.
et que je.
Ok,
Ouais,
d'accord.
c'est un de ceux dont je suis le plus fière, clairement, je le surkiffe. Et je publie plus non plus, tu vois. Genre, je pourrais, en vrai, mais juste la charge mentale que ça représente quand même d'être là en mode, ok, alors, je dois publier, il faut que je le sorte, il faut que je prenne les photos. Et en réalité, je vais pas juste mettre une photo, même si je le pourrais, parce que c'est pas honnête. Donc, il faut que j'aille chercher les références du patron, les références du fil, parce que j'explique un peu quand même d'où ça sort. Tu vois, c'est un peu comme si, c'est un peu comme si je citais pas mes sources. J'aurais le sentiment de pas être honnête dans ce que je mets. Et donc, tout ça me paraît beaucoup trop et beaucoup trop lourd. Et je pourrais ne le faire autrement, mais je serais pas à l'aise non plus. Et donc, juste voilà, ça reste pour moi, dans l'absolu. Je pense que je reviendrai à nouveau sur les réseaux et un peu plus. Enfin, je le remontrerai un peu parce que ça reste quelque chose dont je suis très fière, mais le fait de prendre un pas de recul, eh ben, en fait, c'est un peu la même chose que j'ai ressenti à un moment donné avec ma thèse. C'est qu'à un moment donné, quand je me lance comme ça dans ce genre de projet, ça me définit un peu trop. Et du coup, si ça me définit, je suis plus capable de poser des limites, et donc je me laisse complètement dépasser et je me jette un peu à corps perdu dedans. Et des fois, j'ai besoin de remettre un peu comme ça les choses à leur place et leur dire, voilà, genre, le crochet, c'est génial, j'adore en faire, ça fait partie de ma vie aujourd'hui, mais genre, je me définis pas par rapport à ça non plus. Et du coup, si jamais j'ai envie de plus en faire, c'est aussi mon droit et c'est important que je mette de la distance et que je garde surtout du plaisir dans ma pratique. C'est plus facile à faire pour le crochet que pour le doctorat, je te le cache pas, mais on y travaille aussi.
Oui, je comprends. Bah, c'est vrai que moi, c'était une crainte que j'avais avec la broderie, du coup. De me dire, ah oui, en fait, j'adore faire ça chez moi, dans mon canapé, mais est-ce que si ça devient mon métier, j'aimerais toujours autant? J'ai pas de réponse à cette question parce que pour l'instant, ça va. Je ne sais pas si ça ira dans quelques années. Je ne sais même pas si ça ira dans quelques temps. En fait, au final, on ne sait pas. Après, moi, je m'étais dit, de toute façon, il faut tenter. Et puis, en fait, il y a un moment donné, je ne vais pas non plus faire un travail d'un truc que je déteste pour être sûre de ne pas être dégoûtée des trucs que j'aime. Donc, forcément, il y a un moment donné, il faut prendre un peu le risque qu'une pratique devienne ton travail et du coup, que ça a forcément modifié le rapport que tu as avec. Moi, c'est vrai que j'ai un peu des phases, du coup. Parce que comme mon entreprise, elle n'est pas axée que sur la production de broderie de ma part, en fait, à la base, c'était quand même la production d'outils pour
Oui.
apprendre la broderie, pour aider les gens à pratiquer la broderie. Du coup, il y a ce truc où, en fait, si je vends des kits de broderie ou des coffrets de broderie, machin, En fait, il y a des moments où je peux me permettre de ne pas broder parce qu'on ne m'attend pas au tournant pour des créations, en fait. Parce que ce n'est pas du tout ma seule activité. Et du coup, ça me permet d'avoir en tout cas l'opportunité, si je le désire, de faire pause, que ce soit 2 semaines ou 3 mois, mais de me dire, en fait, là, je vais m'occuper que de la partie pédagogique et pas de la partie création. Je ne crée jamais rien du tout, donc je créerai sûrement autre chose à ce moment-là, ce sera juste pas de la broderie. Mais je pense que ça me permet de garder une distance avec la pratique, dans le sens où bah, voilà, je peux me permettre de ne pas pratiquer tout le temps. Mais après, c'est vrai que du coup, moi, j'avoue qu'au début, quand j'avais lancé l'entreprise, c'était vraiment axé que sur le côté pédagogique. Et c'est vrai que après, bah, forcément, le fait est que j'ai dû broder quand même pour mon entreprise parce que je devais quand même faire des tests de ce que j'apprends dans mes outils pédagogiques, quoi, voir si un petit peu ce que je propose est faisable, faire mes propres tests, faire mes propres démonstrations entre guillemets. Et du coup, il y a un moment donné où j'ai un peu shifté aussi de pratique, dans le sens où au début, c'est vrai que c'était un peu des trucs quand j'ai commencé, j'explorais un petit peu, c'était surtout pour apprendre que je pratiquais. Après, j'ai pratiqué pour servir mon entreprise, donc qui était axée sur plutôt de la pédagogie, mais du coup c'était pour tester mes outils pédagogiques, faire des exemples de ce qu'on peut réaliser avec mes outils, mais c'était pas forcément non plus de créer quelque chose qui va au-delà de ça. Et en fait, c'est quand j'ai commencé un petit peu à allier genre l'illustration avec la broderie, où j'ai commencé à moi prendre des photos que j'avais chez moi, à essayer d'en tirer des petits croquis et à les broder derrière, que là j'ai pu commencer à vraiment mettre du sens dedans et à vraiment faire des broderies pour le coup gratuites entre guillemets, enfin dans le sens où c'était pas pour servir un objectif derrière de ah bah faut que je teste mes prototypes de mon guide de broderie, donc il faut que je teste si tout est faisable et du coup je fais le test chez moi et ça me produit une broderie à la fin. Là c'était vraiment bah en fait je suis partie d'une photo qui me parle pour telle ou telle raison, qui pour moi a telle ou telle histoire, tel ou tel message. Et derrière, j'en fais une broderie, mais du coup, entre-temps, il s'est passé tellement d'étapes entre le moment où j'ai, entre guillemets, recopié la photo avec les lignes qui m'intéressaient. Et puis après, en fait, je choisis mes couleurs, et puis je choisis les points de broderie que j'utilise, et je choisis ce que je rajoute ou ce que j'enlève en point de broderie sur le tracé qui est fait à la base à partir de la photo. Et du coup, forcément, là, tu as tout un travail de création où tu mets du sens, où tu mets encore une fois, une intention artistique derrière. Et du coup, je pense que c'est vraiment là que je me suis réapproprié la broderie et que j'ai mis quelque chose derrière. Et c'est vrai que moi, du coup, je travaille plus sur des questions en rapport avec l'intimité et le corps, dans le sens le temps qui s'imprime sur le corps plutôt. Donc, du coup, comme tu as pu voir et comme les gens ont pu voir s'ils sont allés voir ce que je fais un petit
La
peu sur mon
série
site.
tote bag.
Voilà, c'est ça. Qui du coup, ce sera plus des tote bags l'année prochaine parce que c'est pas le bon support. Et là, justement, c'était encore un truc que j'ai capté. C'est ce truc de j'ai pas fait sur des cadres parce que je le voyais pas comme de l'art assez. Et du coup, je l'ai fait sur des sacs, tu vois.
Fallait que ça reste utilitaire, en fait.
C'est ça. Et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est cool parce que c'est un objet sympa. Et puis là, ce sera un objet sympa qui sera super beau parce que j'ai pu faire mes jolies broderies dessus. Mais en fait, bah oui, ça n'a pas effectivement la même valeur que une broderie encadrée, quoi. Et du coup, voilà, vous pouvez dire au revoir au tote bag, je pense. Enfin, il y aura toujours ceux que j'ai fait cette année, mais la prochaine série que je ferai dans ce thème-là ne sera pas sur des sacs. Du coup, ce sera vraiment dans des cadres, parce que ça mérite d'être dans des cadres, ou en tout cas, voilà, hein, une surface un peu plus. Où je peux un peu plus le mettre en valeur, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié les sacs parce que c'est terminé. Mais voilà, mais ça c'est marrant parce que ça c'est vraiment un truc pour le coup que j'ai capté comme encore une fois comme évolution, c'est ce truc de ah au début j'étais sur des petites décos, après j'ai fait ça sur des sacs et maintenant je me dis non en fait c'est un tableau à l'aiguille donc ça place sur un tableau c'est tout en fait. Il y a pas à se prendre des petits chemins là. Tarabiscoter pour aller voir où est-ce que je peux les mettre alors qu'en vrai leur place elle est encadrée dans un mur, enfin sur un mur, tu vois, c'est tout. Donc voilà un petit peu moi où j'en suis dans ma pratique et je pense que ça va encore évoluer cette année parce que là ça fait que 1 an que je suis vraiment à mon compte là-dessus et que je commence et quelques mois seulement que je dis ah je suis brodeuse et je brode sur tel sujet et tout. Donc ça a encore le temps d'évoluer d'ici à ce que ce podcast sorte et d'ici à l'année prochaine, mais voilà en gros.
Mais je vois totalement ce que tu veux dire, en tout cas avec les sacs, parce que quelque part, il y a aussi ce truc de maintenant c'est ton activité professionnelle, tu veux les vendre. Et syndrome de l'imposteur, tu connais tout ça, genre personne va vouloir acheter tes broderies pour ce qu'elles sont, il faut que ça soit sur un objet utile, parce que sinon les gens ils vont pas y trouver d'intérêt.
C'est
Alors
ça.
qu'en réalité, ben, le message que tu as à faire passer, il est là et existe, et en plus il parle à plein de gens, et donc ces gens-là vont vouloir juste le message, il n'y a pas besoin de lui mettre un truc avec pour essayer de le transmettre, genre il se suffit vraiment à lui-même, quoi.
Bah c'est ça, et puis en plus, enfin, moi j'ai aussi eu un problème du coup à valoriser derrière parce que en fait, t'as passé, enfin, moi j'ai passé des heures en fait sur certains tote bags parce qu'il y a beaucoup de détails, tu vois. Les broderies sont très fines, et au final, c'est un tote bag donc en fait, tu ne peux pas le vendre au prix que ça coûte réellement, enfin, que ça t'a coûté à faire, tu vois, en termes de temps de travail.
Oui.
Et du coup, c'est impossible de le mettre à un prix correct, donc t'es obligé de le brader, et toi derrière, t'as un vieux sentiment de. J'ai passé peut-être 8 heures sur ce truc.
Et puis même, tu vois, tu veux dire qu'au final, toute l'énergie, toute l'intention qu'il y a mis dedans, ça va être pour transporter des oranges, peut-être des
C'est
trucs qui
ça.
vont pourrir dans le sac, peut-être ça va accrocher du crépi sur les murs.
Oui, mais
C'est
c'est ça.
horrible.
Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter et il m'a fallu une bonne petite claque un petit peu, je pense, là-dessus. Mais bon, ça fait partie du cheminement. Mais du coup, effectivement, et en fait, ça, tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que j'arrivais pas à me dire non, en fait, ça va être dans un cadre. Et en fait, même si j'en vends deux au lieu d'en vendre 10, ben, en fait, c'est deux où je me serais bien rémunérée et où je me serais respectée sur mon travail, tu vois. Et du coup, ben, ça vaut beaucoup plus le coup parce que derrière, moi, enfin, bon, du coup, c'est pas grave, cette tote bag, c'est comme ça fait partie de, encore une fois, du trajet que j'emprunte. Et effectivement, j'avais besoin, je pense, de capter que mon travail, pardon, valait plus que ça. Et du coup, de faire évoluer mes supports aussi, mes formats pour que ça colle avec ce que je vais faire derrière. Et du coup, le fait de se réapproprier un petit peu cette place, enfin, ce profil d'artiste, entre guillemets, se dire, bah, en fait, voilà, je suis artiste brodeuse et c'est tout, point. Du coup, ça permet après de réfléchir un petit peu mieux à ce que tu veux faire et à ce que tu veux produire. Et en fait, c'est plus facile psychologiquement, je trouve, après de mettre justement une intention artistique dans ta pratique quand toi-même déjà tu te dis, OK, moi je suis artiste et du coup, bah, maintenant, je prends le temps concrètement de réfléchir à ce que j'ai envie de raconter dans ce que je vais produire là cette semaine. Et tout de suite, ça prend une dimension beaucoup plus intéressante et on n'est plus à. Encore une fois, hein, moi j'adore broder des petites fleurs et je kiffe ça et je fais ça très souvent parce que je trouve ça très sympa et ça, pour le coup, ça fait bien passer le temps et ça fait des très belles additions à plein de pièces. Mais du coup, je pense que effectivement, psychologiquement, il faut se sortir de ce truc de ah bah en fait, c'est juste des petites fleurs et c'est juste pour décorer parce que non, en fait, ça veut forcément dire quelque chose si tu le fais à ce moment-là sur cette pièce-là. Et ça a de la valeur. Voilà, c'est un petit peu mon mot de la fin, sur cette thématique.
T'as raison. Mais il y a un terme du coup que j'adore pour ça, enfin genre en anglais, qui regroupe en fait tous ces trucs un peu comme ça de crafting très féminin et très domestique, c'est les fiber artists.
Ah oui, c'est
Et du
vrai.
coup je trouve ça génial parce que déjà t'as là le nom d'art dedans, c'est artiste et fiber, vraiment ça te prend tout en compte, tu vas avoir tout ce qui est fil quoi, donc tu vas avoir la broderie, la couture, la laine, tricot, crochet. Et vraiment je trouve que c'est un terme qui regroupe tout d'un coup, qui a cette notion d'artistique quand même, tu vois, et que je trouve vraiment très très cool. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'équivalent en français, mais vraiment fiber artiste, je revendique.
Fibre textile.
Bah, t'as le truc art textile, quoi, mais c'est
Oui, c'est
assez peu
ça.
utilisé,
Tu
quoi.
vois, même textile, genre je fais pas du fil, genre textile pour moi c'est
Oui,
pas le fil, c'est le
c'est
tissu.
ça. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autres termes qui se rapprocheraient, quoi. Ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode, encore une fois, de nous avoir honoré de ta présence et
Je suis
d'avoir
là pour ça.
partagé. Et re-salut, je refais une mini apparition en cette fin d'épisode pour conclure un petit peu cette discussion. Encore une fois, on a parlé de beaucoup de choses, mais au fond, on tourne toujours un petit peu autour du même sujet. C'est l'autonomie d'explorer une pratique, de faire des erreurs, de décider de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on refuse de pratiquer. Comme beaucoup de disciplines, j'ai l'impression que les arts du fil peuvent à la fois enfermer et libérer, et des fois ça se joue vraiment à pas grand-chose. On peut décider par exemple de faire de la broderie pour un million de raisons, et c'est la raison qu'on va se donner, au départ en tout cas, qui va fortement influencer ce que la pratique de la broderie peut nous apporter ou non. Mais au final, j'aimerais que vous vous rappeliez d'une des propriétés principales du fil, c'est la flexibilité, et par extension, la réversibilité. Rappelez-vous que vous pouvez toujours commencer une pratique du fil pour une raison et au final en trouver une autre sur la route. Vous pouvez avoir des a priori que vous allez mettre à l'épreuve. Vous pouvez changer de façon de pratiquer au fil du temps. Vous pouvez vous-même changer au contact de la pratique. Alors peu importe ce qu'on peut dire sur ces disciplines, une fois que vous la faites vôtre, une fois que vous vous l'appropriez, plus personne ne peut y toucher. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à en parler autour de toi aux personnes qui auraient besoin d'entendre ces mots. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut !